Bonjour. Ah, c'est bon. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment ça va? Merci Ervans pour le resub. Merci beaucoup Emilien pour ton abonnement. Et merci Fabastar pour ton resub aussi. Bonjour tout le monde. Comment ça roule? On est le 9 décembre 2022. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez fait vos cadeaux de Noël? Envie de mourir. Ah déjà. Ah ouais. Ah putain, ça va vite. C'est la période de la crève. Ah ouais, c'est la crève. Ça va la crève? Vous avez... Tout le monde a chopé un rhume? Merci beaucoup, Anna de Bulle, pour ton resub. Et merci BRNG pour les 5 subs offerts au chat. Merci beaucoup.
Je suis à l'aise financièrement. Je ne me plains pas. Mes affaires marchent en ce moment.
Incroyable. Merci beaucoup pour le resub. Merci à toi. J'espère que vous allez bien. C'est passé le rhume, c'est bon. Une bonne rhino qui cloue au lit. Oh. Rhinopharyngite, c'est le nom savant pour le rhume, c'est ça? Je sais pas, j'y connais rien, je comprends rien. Hop. Merci le kiwi, merci Soirandef. Merci beaucoup. Salut, salut, bonjour à tous. Le bon rhume qui fait plaisir. Ouais. Et toi, Code Beau? Moi, ça va, moi, ça va. Ça va, ça va. Petit live à l'arrache aujourd'hui. J'ai pas trop suivi l'actualité politique ces derniers jours. Excusez-moi, toutes mes confuses. Je suis un peu à côté de mes pompes là. J'ai fait plein de trucs. Et la semaine prochaine, on va voir. Mais il est pas impossible que je m'offre une petite pause, un peu détente. Ça va me faire du bien, ça va vous faire du bien aussi. J'ai testé le plateau télé du Parlement européen, c'était plutôt stylé. Ah, je l'ai pas encore testé moi. J'aimerais bien l'utiliser pour les prochains partenariats avec le Parlement. Est-ce que t'as vu que c'était Antoine Daniel qui était nommé président? Hein? De quoi, de quoi? Président de quoi? Non, j'ai pas vu, j'ai pas vu. Tu peux nous expliquer la symétrie des eucolmates bilatéraux, s'il te plaît? Non, c'est trop facile ça. Non, moi, pardon, c'est une chaîne un peu haut niveau ici. On n'explique pas des banalités. C'est quoi ça la politique? Oh, la bonne question. Bompard, nouveau coordinateur de la France Insoumise. Oui, j'ai vu, ça j'ai vu. J'ai vu passer Emmanuel Bompard, le député. Un personnage important au sein de la France Insoumise. Peut-être pas le plus célèbre aux yeux du grand public. Il y a d'autres figures de la France Insoumise un peu plus célèbres. Mais Emmanuel Bompard est une cheville ouvrière importante du mouvement depuis pas mal d'années maintenant. C'était jusque-là Adrien Quatennens qui avait le poste de coordinateur de la France Insoumise, coordinateur voulant dire numéro 1 de l'organisation, le numéro 1 politique restant Jean-Luc Mélenchon. Mais voilà, donc ouais, Emmanuel Bompard, pas étonnant, c'était lui qui était à la manœuvre pour la signature de l'accord avec la NUPES au printemps dernier. Donc ça ne m'étonne pas. Pourquoi ce changement? Parce que Adrien Quatennens, voilà quoi. Mathilde Panot, c'est la présidente du groupe à l'Assemblée nationale, ce qui est déjà un poste très important. Et ils n'ont pas souhaité organiser de cumul avec la direction du mouvement, du parti. J'ai commencé Enquête de politique sur ton conseil, c'est très très quali. C'est chouette hein, comme podcast. Enquête de politique, c'est l'émission de Thomas Legrand sur France Inter. Et c'est vraiment un de mes podcasts préférés. Hein. Usul aussi d'ailleurs. On en a parlé, on était grave d'accord, fait franchement trop bien. Voilà, si ça vous intéresse la politique, Enquête de politique est un podcast très cool qui explore l'histoire et la définition de mots qu'on utilise dans le politique, notamment de mouvements d'idées. Ton tweet sur les manœuvres politiques du RN a fait jaser mes potes de droite. Pourquoi jaser? Dans quel sens? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais tant mieux, c'était le but de ce tweet, hein, de faire réfléchir, de faire jaser. Tu penses quoi du projet PolitiWikiFR? Je connais pas, je sais pas. Ne connais pas. L'accord Autain-Ruffin aussi est important. C'est quoi l'accord Ruffin-Autain? Ruffin-Rotin, putain, pas du tout. Ruffin-Autain. Quel tweet? Non, 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 mais c'est juste un tweet que j'avais fait pour expliquer le move dont on a parlé hier, avant-hier, pardon, du Rassemblement national qui dépose une proposition de loi de la France insoumise pour les mettre au pied du mur. Autain a dit publiquement qu'elle souhaitait que Ruffin ait une place importante dans la direction. D'accord. Ok, je ne savais pas. Quatennens, peut-il percevoir son indemnité sans venir à l'Assemblée en 5 ans? Non, s'il a une obligation de présence aux réunions de commission. Voilà. Pourquoi aux US, la gauche, c'est un peu notre droite à nous? Parce que la notion de gauche et de droite, c'est contextuel, subjectif. Merci Emana pour ton resub. Des bars, c'est comme à l'école. Oh, il y a un peu plus d'obligations à l'école quand même. Merci Yoricolère pour ton resub. Merci pour ton resub, pardon. Merci beaucoup. Merci Arcarlins pour ton resub aussi. Merci SpaceManX9. Merci Sorandev. Merci le Kiwi. Merci BRNG. Ça, je t'ai déjà dit merci. T'as déjà été dans un syndicat lycéen? Non, quand j'étais au lycée, moi j'étais pas dans le syndicalisme, j'étais dans l'associatif. Donc jamais été. Gauche-droite, c'est la même chose, comme disait Tiken Jah Fakoly. Il a dit ça, Tiken Jah Fakoly? C'est Macron qui disait gauche et droite, c'est la même chose. D'ailleurs, c'était intéressant parce que justement, le tweet où j'explique que le Rassemblement national fait un move intéressant en forçant les insoumis à prendre une position sur est-ce que c'est cachère ou pas de bosser avec le RN à l'Assemblée. Et j'ai eu plein de réponses de gens qui m'ont dit ah là là, on voit bien que les politiques, ils s'intéressent plus à leurs étiquettes politiques et à leurs idéologies qu'à l'intérêt du peuple. Qu'est-ce qu'on s'en fout d'où vient la proposition? Si c'est une bonne proposition, il faut la voter. Voilà, il existe une qualité intrinsèque aux propositions, il y a des bonnes idées, etc. Et moi, en lisant ça, je me suis. Enfin, il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup des tweets comme ça, ce qui ne m'étonne pas, parce que c'est un truc qu'on entend beaucoup. Et en même temps, je me suis dit, putain, Emmanuel Macron a gagné cette bataille-là en 2017, faut pas oublier ça. Hein. L'idée qu'il y a des bonnes idées dans tous les camps politiques et qu'on peut se mettre d'accord sur des bonnes idées, c'est la base de la fondation d'En Marche et du macronisme. Travaillons ensemble par-delà les étiquettes, etc. La politique, c'est quelque chose de mal vu et de peu apprécié, on le sait. Les Français ont un rapport très conflictuel avec la politique. Et parmi les choses que les politiques n'aiment pas, il y a, que les Français n'aiment pas, pardon, l'opinion publique au sens très large, il y a, les idéologies, les partis politiques, les tactiques politiciennes, etc. Et lorsque c'est ce qu'on pressent, on a tendance à juger très fortement les politiques. Je pense pas que ce soit un truc Macron, c'est quelque chose qu'on entend souvent de la part des gens qui ne sont pas nécessairement politisés. Oui, mais justement, ce que je veux dire, c'est qu'Emmanuel Macron a réussi à saisir ça en 2017. Et c'était toute la difficulté. Voilà, il a su saisir un moment politique en donnant ce discours-là à des gens qui avaient envie de l'entendre. Ah tiens, un mec qui propose de travailler par-delà les clivages avec des gens issus de la droite et issus de la gauche, ceux qui veulent sont les bienvenus, etc. Ça a plu à beaucoup de gens. Et force est de constater que ça a plu pour des bonnes raisons, enfin pour des raisons qui parlent à beaucoup de gens, que je comprends, enfin qu'il faut comprendre, qu'il faut entendre. Il a rien saisi du tout, juste vous êtes des gros moutons. Eh ben, hésite pas à être notre berger. Gentil de ta part. Le CNR, la résistance, c'est pas En Marche ou le macronisme, c'est pas travailler ensemble obligatoirement, mais se mettre d'accord dans un objectif simplement de la bonne foi. Le Conseil national de la résistance, c'est autre chose. C'est là aussi, c'est un contexte. Hein. C'est tous les mouvements de la résistance qui préparent l'après. C'était ça, le Conseil national de la résistance. Tiens, d'ailleurs, on parlait du podcast Enquête de politique. Je t'invite à l'écouter parce que Thomas Legrand a fait un épisode sur le Conseil national de la résistance très intéressant. Qui explique ce travail intellectuel qui a été fait par les représentants des forces de la résistance pour préparer, une fois que la France sera libérée, qu'est-ce qu'on fera? Et c'est un moment où ils ont eux aussi saisi un espèce de consensus politique où ils étaient prêts à travailler sur l'État-providence, sur la reconstruction d'un multipartisme, etc. Perso, j'en ai fait partie à la base, le discours de compromis, etc. me parlait, mais depuis, je suis un peu dégoûté. Je peux comprendre, et je ne rejette pas le discours par principe, hein. Je ne rejette pas le discours, je l'entends aussi, je le trouve intéressant. Et le nouveau CNR de Macron, ça donne quoi? Pas grand-chose à ma connaissance. Il y a deux conseils nationaux de la refondation sur des thématiques. Il y en a un sur la santé et l'autre sur... Je sais plus. Personnellement, si l'idée de départ de Macron, c'était de réunir les partis de l'Assemblée pour les faire bosser ensemble, je trouve que c'est un échec. Je trouve la France plus clivée que jamais. C'est un échec et un semi-échec, puisque même si elle n'est que relative, Emmanuel Macron, enfin, cette option politique-là reste majoritaire à l'Assemblée nationale. Force est de constater que ça continue à plaire à beaucoup d'électeurs. Et qu'il a réussi le raidissement et la tripolarisation dont on parlait. Il a réussi à braquer les droites et les gauches classiques pour envoyer les électeurs vers des positions plus radicales. Ah, sur l'école. Ah oui, t'as raison, Volt. Oui, c'est peut-être Conseil national de refondation sur l'école. Peut-être ça. Est-ce que c'est cette idée qui plaît aux électeurs ou simplement le personnage? Les deux. T'as raison de rappeler qu'une élection présidentielle, c'est très incarné, donc la question de la personne est au moins aussi importante que la question des idées politiques, chacun ayant son propre curseur. Mais voilà. C'était l'aspect dont on a déjà parlé plein de fois de le dégagisme macronien qui a remporté et qui a sacrément bousculé le paysage politique français en 2017. J'ai pas compris, chez les Verts, je croyais que Marine Tondelier devait devenir la nouvelle chef. La motion portée par Marine Tondelier a reçu une majorité de votes lors du congrès du parti Europe Écologie Les Verts. Donc oui, Marine Tondelier va devenir la nouvelle chef, la nouvelle secrétaire nationale, c'est le titre que les écologistes donnent à ce poste stratégique. Merci Tréco et merci Raven. Est-ce qu'il est si aimé que ça ou c'est une sorte de barrage républicain anti-extrême? Avec Mélenchon, Chavez à gauche et Le Pen, Orban à droite. Bah, aux élections législatives, en tout cas, les candidats d'Emmanuel Macron ont remporté un certain nombre de circonscriptions, c'est ça que je dis. Pas forcément à l'Assemblée, à l'élection présidentielle, on peut en discuter, il a quand même maintenu au second tour. 3 000 votants dans les motions des Verts, ça semble peu, t'en as déjà parlé. Ou on en a déjà un petit peu parlé, oui, rapidement, 3 000 votants, oui, c'est pas énorme. Mais il ne faut pas oublier que chez les écologistes, comme dans d'autres partis politiques, le processus de désignation du candidat à l'élection présidentielle n'est pas le même que le processus de désignation des dirigeants du parti. Le processus de désignation des dirigeants du parti est plus petit, puisqu'il ne s'adresse qu'aux adhérents, là où les écologistes, pour reparler d'eux, ont fait le choix d'une primaire ouverte, semi-ouverte. Non, c'était ouverte, c'est ouverte, pour désigner le candidat. Donc effectivement, il y a 200 000 personnes, je crois, de mémoire, qui avaient voté pour la primaire et qui avaient mis Jadot comme candidat. Et 3 000 adhérents qui se sont intéressés à l'avenir du parti. Voilà. T'as parlé des Républicains, j'aimerais bien t'entendre sur la révélation de Libé d'aujourd'hui. J'ai pas vu les révélations de Libé d'aujourd'hui, ils ont révélé quoi Libé? Sachant que le vote pour le second tour du Congrès des Républicains, c'est dimanche. LFI, c'est toujours considéré comme d'extrême gauche. Ça dépend par qui. Voilà. Je vous ai dit, voilà, il n'y a pas de consensus absolu sur les définitions et sur les conventions droite-gauche. Combien de votants au premier tour des Républicains ? 60 000 de mémoire. 66 000, je crois. Où commence la gauche ? Vous avez 4 heures. Et dans 4 heures, quand vous aurez fini, on enchaînera sur où s'arrête la gauche. Ça fait beaucoup 66 000. Oui, ça fait beaucoup 66 000. Les Républicains est un grand parti historique français avec beaucoup d'adhérents, beaucoup d'élus locaux. Pareil, on peut discuter du nombre. 66 000, ça fait beaucoup. Oui et non. Il y en a eu beaucoup plus par le passé. Merci Guillaume et merci d'évoquer. Excusez-moi, je lis le chat. Hein, je lis le chat. Je vous ai dit aujourd'hui c'était un stream chill, on discute, on papote, on parle de ce que vous voulez, de politique si vous voulez. Moi ça me va très bien. Mais j'ai pas préparé grand chose, je vous avoue. Ça fait un Français sur 1000. Ouais. Ici, on traite Québec solidaire d'extrême gauche alors que le mot extrême ne veut rien dire. C'est un adjectif, hein, donc tu la colles à ce que tu veux. Qui est-ce qui avait dit que la NUPES c'était quasi anarchiste? C'était Amélie de Montchalin qui avait dit ça. Avec Cédric Villani, le candidat quasi anarchiste. Ouais. Comment réussir à débattre avec des gens dont les idées nous dégoûtent? Le faut-il? Le faut-il? Je vous rappelle que vous ne devez le débat à personne. Voilà. Personne ne doit. Vous ne devez rien à personne. Vous ne devez pas débattre. Vous ne devez pas. Vous ne le faites que si vous en avez envie. Ou besoin. Ça, c'est votre problème. On doit le débat à la démocratie. Non. Non, non plus. Je préfère le terme radical à extrême qui signifie retour à la racine. Ah oui. Ouais, on peut dire orthodoxe aussi. Orthodoxe, ça veut dire dans la doxa, dans la droite ligne. En 1986, il y avait 885 000 adhérents au RPR. Ah ouais, c'était une autre époque, ouais. Mais bon, ils ont remporté les élections législatives cette année-là. Tu peux aussi compter le nombre d'adhérents du Parti communiste français dans les années 50. On était sur plusieurs millions. Radical, c'est trop connecté politiquement pour être employé n'importe comment. Non, alors en l'occurrence, les chercheurs en sciences politiques préfèrent le terme radical au terme extrême, simplement parce qu'ils font de la recherche, donc ils essayent d'avoir une grille d'analyse objective sur les mouvements et sur les choses, et la notion de radicalité est plus précise et plus neutre que la notion d'extrême qui emporte avec elle une sorte de jugement de valeur. Donc c'est pour ça que quand vous lisez des thèses de sciences politiques, on préfère parler de la gauche radicale, de la droite radicale, plutôt que de l'extrême droite, de l'extrême gauche, ou l'ultra-droite ou l'ultra-gauche, qui sont plutôt des termes vulgaires au sens du débat public, de la presse généraliste, etc. Tu t'y connais un peu en politique belge et wallonne? Non. Pratique quand vous lisez des thèses de sciences politiques. Oui. Quand vous les lisez. Est-ce que tu as vu l'annonce du Conseil d'État d'annuler la loi sur l'emballage plastique des fruits et légumes? Non, j'ai pas vu. Je suis désolé, je regarde pas les décisions du Conseil d'État tous les jours. Non, non, blague à part, je l'ai pas vu passer, je sais pas. Et la radicalité d'aujourd'hui est différente de la radicalité d'hier, il faut contextualiser, absolument, tu as raison. La radicalité elle-même évolue dans un, elle se place dans un contexte spécifique qu'il faut préciser et définir. Y a qui comme chercheur en sciences politiques qui vulgarise un peu son taf? C'est-à-dire, enfin, y en a un paquet qui écrivent des bouquins quand même. Après, la vulgarisation, c'est encore un métier particulier, donc je sais pas. Yves Bréchet, non, je n'ai pas regardé. Du coup, si je comprends bien le message de Macron au début, c'est de faire avec tout le monde, battre les clivages et résultat, on prend 8,49,3 en 50 jours. Ouais. Clément Viktorovitch, ouais, Clément Viktorovitch, qui fait de la vulga un petit peu. Il n'est pas vraiment chercheur. Si, 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 si. Enfin, il a été enseignant surtout. Alors, est-ce qu'il l'est toujours? Je sais pas. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Les médias, ils aiment dire 8,49,3 alors que c'est juste deux. Non, c'est deux textes qui ont fait l'objet d'utilisation du 49,3 dans le cadre de leur discussion parlementaire à l'Assemblée nationale, impliquant l'utilisation à 8 reprises du mécanisme du 49 alinéa 3. Donc ça dépend si tu comptes les textes ou si tu comptes les déclenchements. Il y a 8 déclenchements sur deux textes différents. Usul n'a pas été chercheur en politique, non. Il est toujours enseignant, Clément? Ok. Formation de chercheur, c'est pas pareil que chercheur. Oui, c'est vrai. Mais Usul n'a ni l'un ni l'autre, donc pour ce qui est de son cas, lui, non. Le texte n'a le droit qu'à un seul 49,3 sur un texte hors financement, c'est ça, oui. Le gouvernement ne peut utiliser le 49,3 que sur un seul texte, mais autant de fois que nécessaire au cours de l'examen de ce texte, vous avez compris, en dehors des lois budgétaires. Par session, je précise bien par session. Aller voir le sur YouTube le piège tendu par le RN à LFI. Perso, j'ai lu aussi un article sur France Info. Je me demande on pourrait parler d'idées un jour en France et non de textes de parti. C'est-à-dire, c'est difficile de décorréler une idée politique des personnes qui la portent et des raisons pour lesquelles ils la portent. Fussent-elles idéologiques, philosophiques, politiques, tactiques ou stratégiques? Du coup, le gouvernement ne pourrait-il pas faire autant de sessions extraordinaires qu'il le veut? C'est une bonne question. Je crois que les sessions extraordinaires ne peuvent se réunir que en dehors de la session ordinaire par définition. Et en général, il n'y en a que deux ou moins. J'ai jamais vu de trois sessions extraordinaires. Le 49,3 peut-il être utilisé sur n'importe quel type de loi? Oui. À l'Assemblée nationale et uniquement à l'Assemblée nationale. Sauf pour les lois pour lesquelles il y a des procédures d'adoption spécifiques prévues par la Constitution, à savoir, si je ne dis pas de bêtises. Et en même temps, j'ai un doute, hein, proposition de loi constitutionnelle, loi organique, je sais pas. C'est pas limité aux lois budgétaires, le 49.3. Non, parce qu'en plus des lois budgétaires, il y a la possibilité de l'utiliser une fois sur un texte non budgétaire, par session. Et encore, c'est nouveau ça, hein. Le fait qu'on a limité le nombre de cartouches à une seule, ça date de 2008. Avant, il n'y avait pas de limite. Loi organique et loi constitutionnelle, impossible 49.3. Bah, c'est bien ce que je me disais, ça me paraît logique. Ça me paraît logique. Mais bon, c'est pas non plus tous les matins qu'on vote des lois organiques et des lois constitutionnelles, donc dans ce qui est ce qu'on appelle les lois ordinaires, qui en fait sont les plus nombreuses, c'est une seule par an. L'État a-t-il encore une utilité? L'école publique s'effondre, la santé publique tient grâce au sacrifice des soignants, les atouts nationaux sont privatisés. Bah, t'as l'air de toi-même dire que justement, ça a l'air d'être utile, justement. C'est quoi la définition d'une loi organique? Loi organique, c'est une loi qui précise les conditions d'application de la Constitution. Donc c'est des espèces de super lois organisationnelles qu'on vote pas tous les matins. Par exemple, l'élection des députés, le nombre de députés, le scrutin proportionnel ou pas, ça c'est décidé par la loi organique, c'est pas fixé par la Constitution. La Constitution, on dit qu'elle renvoie à une loi organique. Donc en gros, les constituants, au moment où ils écrivent la Constitution, ils rentrent pas dans le détail absolu de toutes les pouvoirs publics et de l'organisation. Ils peuvent renvoyer à une loi organique qui sera votée plus tard et qui viendra préciser les modalités. Voilà. Par exemple, il y a une loi organique relative aux lois de finances, qu'on surnomme la LOLF, la LOLF, la LOLF, qui date de 2001, et qui est une loi très importante parce que c'est elle qui précise et encadre les conditions d'examen des lois de finances à l'Assemblée nationale. Et plus globalement, en fait, la LOLF, c'est une loi très importante parce qu'elle encadre la méthodologie de construction des finances publiques et du budget de l'État. Donc elle prévoit tout un tas de trucs, de manières de calculer, d'organiser le calendrier, etc. Voilà. Savez-vous que personne ne connaît la longueur et l'ensemble des articles de la Constitution canadienne? C'est un pays de common law. Donc la Constitution est non écrite. Merci, Zeyrman. Si la loi sur l'IVG rentre dans la Constitution, il faudra rédiger des lois organiques. Non, parce qu'en l'état actuel de la rédaction du texte constitutionnel, il n'est pas prévu d'un renvoi à une loi organique. Donc on ne renvoie pas tout à la loi organique, hein, c'est juste quand c'est prévu par la Constitution. Ouais, je vais vous montrer des exemples. Constitution 58. Hop, hop. Quand on lit la Constitution, de manière bête et méchante, article 6, le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct, nul ne peut excéder plus de 2 mandats consécutifs, les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique. Donc le constituant, il s'est pas fait chier à détailler plus que ça, il a dit, bon, on fixe la méthode d'élection, on fixe le nombre de mandats consécutifs, mais alors ensuite la précision de la date des élections, du machin, début et tout, bah écoutez, on verra ça dans une loi organique, on en discutera plus tard. Et voilà, il y en a plusieurs des trucs comme ça. La loi organique donc précise qui peut être candidat. La loi organique, voilà. Donc il y a une loi organique relative à l'élection du président de la République. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme exemple? Article 13, président de la République. Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres, ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du président de la République peut être par lui délégué pour, etc., etc. Bref, on rentre pas dans le détail, on avance. Plus loin dans la loi, il y a quoi? Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique. Pareil, on verra plus tard quelles sont les conditions que l'on met à la possibilité de voter des résolutions. La représentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale et le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique. Voilà. Et détaillé par le streamer Jean Massier sur sa chaîne YouTube.
Je possède des...
Non, non, pardon. Du coup, une loi organique, c'est une loi qui dit la Constitution, elle s'applique comme ça, et elle est plus facile à modifier. Elle est plus facile à modifier qu'une Constitution, mais elle est plus difficile à modifier et à voter qu'une loi normale, une loi ordinaire. Les lois organiques, c'est un peu plus compliqué. C'est quoi une résolution? Une résolution, c'est un texte que vote l'Assemblée nationale ou le Sénat et qui sert à rien. Pardon, c'est un peu vite résumé, mais c'est un peu l'idée. C'est-à-dire que c'est une résolution, c'est un texte déclaratif, c'est une déclaration d'intention qui ne porte pas de mécanisme juridique, qui ne crée pas d'effet de droit. Ça a vocation à créer un effet politique. Donc l'Assemblée nationale peut, si elle le souhaite, voter une résolution en faveur d'une résolution rapide du conflit ukrainien. C'est un texte de positionnement politique qui dit, nous, l'Assemblée nationale française, sommes très préoccupés par la situation en Ukraine et souhaitons et émettons le vœu que les partis trouvent les conditions d'un cessez-le-feu et de la signature d'un armistice. Voilà. C'est une volonté exprimée. C'est un texte qui peut être politique, mais pas juridique, quoi. Les résolutions des Nations Unies. Alors, c'est pas tout à fait pareil. Non, là, je parle d'une résolution en droit français. Les Nations Unies, c'est une organisation internationale qui fonctionne sur un mode de fonctionnement spécifique. Les Nations Unies ne sont pas une organisation légiférante. Mais les Nations Unies peuvent voter des résolutions en Assemblée générale ou en Conseil de sécurité. Et ces résolutions portent la volonté des Nations Unies qui peuvent produire des effets diplomatiques, militaires, etc. Donc dans le cadre d'une résolution du Conseil de sécurité, virgule, il peut y avoir une intervention militaire. Par exemple. Mais l'ONU, l'organisation des Nations Unies, ne peut pas fabriquer du droit. Ils peuvent fabriquer du consensus politique, ils peuvent fabriquer de la politique, c'est-à-dire du compromis, etc. Mais ils ne peuvent pas aller jusqu'à édicter une loi qui deviendrait obligatoire, etc. Ça ne marche pas comme ça. Mais bon, une résolution votée par l'Assemblée générale des Nations Unies, ça pèse quand même son pesant de cacahuète. Hein. C'est quand même un texte dans lequel les gouvernements des États s'expriment et expriment une position collective. Ça a son poids politique. C'est comme ça quand l'AG de Tolbiac vote la destitution d'Erdogan. Oui, on a déjà voté ça. Ah oui, alors moi je me souviens, les AG étudiantes ont voté des résolutions. Hein. Ça, les AG étudiantes. enfin, je me moque un peu, parce que quand j'y repense, je trouve ça un peu rigolo. Mais nous, on avait des AG étudiantes à l'époque. Il y avait des mecs qui prenaient le micro et qui disent, moi je propose le vote d'une résolution pour déclarer notre assemblée souveraine. Et les mecs, ils votaient, hein. Ouais, ok, si tu veux. C'est vraiment. On se réunit à trois dans un champ et on décide de qu'on est souverain dans notre état. Et notre état, c'est la taille du champ. Ensuite, ils votaient des résolutions en faveur de la destitution. Moi, je me souviens, il y a des mecs qui avaient voté la destitution du président de la République. Ils avaient voté la dissolution de l'Assemblée nationale. Ils avaient voté le désarmement de la police. Ils avaient voté l'abrogation de la loi machin. Oh non, il y a des résolutions, tu peux voter des trucs, hein. La paix dans le monde, je crois. Je me souviens, il y avait un mec pour troller, il avait fait une résolution pour la paix dans le monde. Qui vote pour la paix dans le monde? Et les mecs qui avaient dit non, t'es en train de te moquer et tout, il avait dit non, pas du tout, c'est très sérieux. Je pense que, vu qu'on a décidé qu'on était souverain, c'est important qu'on se prononce sur des choses importantes, comme par exemple la paix dans le monde. Est-ce qu'une loi organique ou constitutionnelle est plus difficile à défaire que les autres? Oui. Oui. Quand j'étais petit, j'avais déclaré que je fondais mon propre État mobile, car constitué d'un territoire dans un cercle d'un mètre autour de moi-même. Et du coup, si un policier te mettait les menottes, tu lui disais que c'était une violation de territoire, que ça ne se passerait pas comme ça et que tu saisirais les Nations Unies. Alors vous savez qu'il y a des, y a des micronations, comme on dit. Ça existe, hein, des micro-États, des micronations. Il y en a deux types. Il y en a qui sont officiels, c'est-à-dire reconnus par d'autres. Par d'autres États, etc. Donc, par exemple, des petites îles dans le Pacifique, etc. Et puis, tu as aussi des micronations qui sont simplement des espèces de projets plus ou moins sérieux, plus ou moins folkloriques, portés par des gens qui, alors pour certains, qui s'amusent, parce que c'est une passion pour eux, à inventer des États de toutes pièces. Et surtout, ce qui les amuse, c'est d'en inventer. L'héraldique, les drapeaux, les armoiries, machin, etc. Et donc il y a une association mondiale, il y a une association mondiale des micro-États et des micronations. Chaque année, ils organisent une assemblée générale des micronations et ils se réunissent. Je sais plus où ils font ça, mais ils se réunissent pour pour s'auto-célébrer. Donc il y en a plusieurs sortes, hein, des États-nations comme ça. Je vous l'ai dit encore une fois, il y a des projets qui sont sérieux parce que politiques. Donc, tu as des projets de gens qui disent on va. Il y avait une plateforme pétrolière qui avait été achetée par des hackers qu'on avait fait, ça s'appelait Sealand, je crois, qui était en mode on est dans les eaux internationales, on va créer un état dans lequel on va héberger des serveurs, etc. etc. Donc là, il y avait une idée politique. Il y a des projets comme ça d'extrême droite qui existent depuis longtemps, hein, de créer des micro-états sur des îles, on va acheter une île, on va décréter un état sur lequel on mettra l'apartheid, interdiction aux juifs, aux noirs, aux homosexuels et tout. T'as des monarchistes plus ou moins sérieux et tout. Donc voilà. Je préfère les microbrasseries, ouais. Donc voilà, donc oui, ça existe ce truc-là. Il y a des crypto-bros qui ont acheté un yacht pour faire leur propre état maritime, je crois. D'accord. Donc bref, tout ça est très folklorique et très sympathique. Ça amuse certaines personnes qui font du RP. RP chef d'État, ça les amuse. Mais bon. En droit international, un état, c'est quand même défini de manière assez précise, hein. Un territoire, une population, une autorité. Et une reconnaissance, ouais, une reconnaissance mutuelle par les autres États, ouais. Après, il y a beaucoup d'États qui sont partiellement reconnus. Oui. Oui, ça fout le bordel, oui. Population, territoire, gouvernement et indépendance. T'es sûr pour l'indépendance? Je suis pas sûr, hein. La reconnaissance, c'est pas officiellement un critère. Non, effectivement, la reconnaissance, c'est, disons que c'est une nécessité politique, mais c'est pas écrit dans les textes comme ça. Monaco, c'est un micro-État? Non, 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 non. Non, Monaco, c'est pas un micro-État. Monaco, c'est un État à la souveraineté reconnue par des traités internationaux avec ses voisins. Andorre, pareil. Le Luxembourg, pareil. Non, 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 c'est pas ça des micro-États. Les micro-États, c'est des trucs de quelques hectares au fin fond de l'Oregon. Le Vatican, pareil, le Vatican est un État reconnu qui a un siège d'observateur à l'Assemblée générale des Nations unies, à ma connaissance. C'est pas un micro-État, le Vatican. C'est pas... Micro-État, il y a un caractère autoproclamé. T'as un exemple de micro-État, mais je crois qu'il y a une page Wikipédia des micro. Des micro-États. Ah non, tiens. Alors d'après Wikipédia, moi je faisais une distinction dans ma tête, mais qui visiblement n'est pas celle-là. Un micro-État est un État souverain possédant une faible population, une petite superficie. Les micro-États ne doivent pas être confondus avec les micronations, qui sont des entités non reconnues. Ah, d'accord, en fait, ils font la distinction entre les deux. D'accord, ok. D'accord, donc micro-État, ça veut dire petit État, soit petit par la population, soit petit par le territoire, soit les deux. Et donc, là, vous faites rentrer Andorre, le Liechtenstein, Monaco, Saint-Marin, le Vatican, etc. Ok, d'accord. Ah oui, donc excusez-moi, depuis tout à l'heure, je vous parle des micronations, et je distingue ça et je confondais ça, pardon, avec les micro-États. En fait, micro-État, c'est reconnu, officiel, c'est souverain, donc. Et les micronations, par contre, c'est une entité territoriale ou extraterritoriale créée au départ par un petit nombre de personnes et qui prétend au statut de nation indépendante et qui en présente les caractéristiques, mais n'est en aucune façon reconnue comme telle par les nations officielles ou par les organismes transnationaux. Le terme micronation, apparu dans les années 90, a été probablement inventé par Robert Ben Madison, le créateur de Talosa, qui est un royaume. Ok. Et donc il y a une liste. Ils organisent des sommets internationaux, et ça, je vous en parlais tout à l'heure. Il y a une carte des micronations. Je suis en train de regarder Wikipédia, hein, tout simplement. Donc on en a quelques-unes en France, visiblement. On peut pas cliquer que c'est pas interactif. Les micronations en France, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? L'organisation de la micro-francophonie est une organisation inter-micronationale. Ah oui, d'accord, du coup. Ah putain. Fondée en 2016 dans le but de favoriser l'harmonie entre les alter-États et autres entités francophones. Initiée par la République de Saint-Castin et la Principauté d'Aigues-Mortes, elle se veut être un outil promotionnel pour la francophonie et la cohésion entre ses membres. D'accord, donc ça, c'est une organisation inter-micronationale. Je ne savais même pas que ça existait. Mais très bien. Qu'est-ce qu'on a du coup? Alors, algues mortes. Mais non. Ah, ça va tout va renvoyer au même article? Basse Chenani. Saint-Tual. Empire de Basse Chenani. C'est un avocat parisien qui a créé en 96 une micronation indépendante d'une superficie de 1,1 hectare dans la commune de Saint-Tual, l'empire de Basse Chenai, de la Basse Chenai. Il crée aussi sa propre constitution, sa monnaie, le franc chénois, ainsi qu'un gouvernement et des institutions honorifiques. Ordre de l'Excellence impériale, Ordre de l'Amphore, Ordre de l'Amazone. Des ministères, une vingtaine, viennent compléter la structure. Putain, 20 ministères pour un hectare. On y trouve par exemple le ministère de la diplomatie et de ma main dans ta gueule. Ah, le ministère de la diplomatie et de ma main dans ta gueule. Celui du sport et champagne, ou bien de la justice et décisions arbitraires. Garde des Sceaux. Il est institué dans cette micronation une noblesse d'empire constituée de chevaliers, barons, comtes, ducs et princes, ainsi qu'un ordre religieux, l'ordre des chapeliers, rattaché à la chapelle Samson de Dol, érigée sur ce territoire. Visiblement, on est dans le domaine de la blagounette. Ok, donc il y a une distinction entre micro-État et micro-nation. Voilà, je ne savais pas. Eh ben, je le saurais. Ça coûte cher de créer une micro-nation? Bah, tu fais ce que tu veux, hein. Ça peut être un document Word sur ton ordinateur dans lequel tu cliques droit nouveau document intitulé Constitution. Mais après, si tu veux t'amuser à imprimer des médailles, une monnaie, un drapeau et tout, bah ça va commencer à coûter un peu, ouais. Est-ce qu'on peut considérer Groland comme une micronation? Alors, je pense que c'est une nation imaginaire. Il va falloir lever des taxes. On m'avait raconté comme ça qu'il y avait un Britannique, un juriste au Royaume-Uni qui avait acheté aux enchères des titres de noblesse sur un territoire à la con, je sais plus où, au Royaume-Uni, et qui avait essayé de faire reconnaître en justice son droit à prélever des taxes. Il avait essayé de trouver un espèce de trou noir dans l'histoire juridique britannique, l'histoire constitutionnelle. Il avait essayé de se prévaloir d'un titre de noblesse lui permettant de prélever des taxes sur la population. Et ça avait pris des années de procédure avant qu'il se fasse débouter, évidemment, par des juges qui ont dit en fait, on en a un petit peu ras-le-bol de jouer au con avec vous. Donc barrez-vous. Non, vous n'allez pas taxer les gens. Non, vous n'avez pas d'autorité pour lever des taxes et des impôts. Barrez-vous. Une espèce. Ah oui, pardon, je dis encore une espèce. Pardon, 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 pardon. En même temps, la common law, quel bordel. Ah oui, quel bordel. Ah oui, non, mais alors ça, aux États-Unis, t'as les l'alt-right américaine, là, les libertariens, etc. T'as aussi un paquet de dégénérés qui inventent des micro-États comme ça, armés et tout, en mode on reconnaît pas l'autorité de l'État fédéral américain, on est souverain dans notre nation et tout. Comment ils s'appellent les. Sovereign citizens, citoyens souverains. C'est le Saint-Siège qui bénéficie d'un statut d'observateur à l'ONU, pas le Vatican. D'accord, ok. Merci Ergovius, je ne savais pas. Donc c'est officiellement le Saint-Siège qui a un statut d'observateur à l'ONU. Le Saint-Siège qui a un rôle diplomatique important. Hein. Faut pas sous-estimer l'importance du Vatican dans la diplomatie. Ils ont bossé dans des dossiers très importants, la Pologne et l'URSS, Cuba. Ils ont joué le rôle d'intermédiateur, de médiateur, pardon, dans plein de conflits divers et variés. T'as vu la nation du Tuvalu qui va disparaître à cause de la montée des eaux et qui veut se copier dans le métaverse? Ah non, ça j'ai pas vu. Mais je me souviens le Tuvalu, ouais, le Tuvalu, alors je sais pas comment ça se prononce, mais qui est effectivement c'est un état, ce sont des îles dans le Pacifique, et ça va être le premier état qui va disparaître du fait de la disparition de son territoire. Et je me souviens, j'avais un prof de droit international à la fac qui nous expliquait que ce sujet-là est un sujet qui, en termes de philosophie du droit international, est extrêmement intéressant parce que personne ne sait comment on va gérer la souveraineté. On a jamais eu à connaître, en droit international, on n'a jamais connu d'État dont le territoire disparaît. On a déjà connu des États dont le territoire est pris par un autre État, mais le territoire est toujours physiquement là, et généralement la population dessus. Mais un État dont le territoire disparaît, est-ce que la nation existe toujours? Est-ce qu'elle déménage? Est-ce qu'elle peut continuer à avoir une forme de souveraineté? Si oui, laquelle? Enfin bref, en termes de philosophie du droit, c'est un casse-tête. La Corse indépendante, c'est réaliste. C'est pas voulu par beaucoup de monde, même en Corse. Et puis je sais pas, ça dépend, t'appelles quoi l'indépendance? Bonjour, je claque mon meilleur follow après t'avoir découvert sur YouTube. Merci à toi. Bienvenue, merci. Et quand la responsabilité est humaine, quelles sont les réparations pour un pays qui a perdu son territoire et qui les paie? Non, mais c'est hyper intéressant, je suis d'accord avec toi. Il y a des sujets de droit. Enfin, moi j'ai fait du droit dans mes études. J'ai surtout fait de la recherche en droit et en droit public. Et il y a des questions fascinantes qui se posent dans des colloques de juristes qui n'intéressent que les juristes. Mais en philosophie du droit, on se pose des questions sur la reconnaissance de la capacité juridique et de la personnalité juridique pour des forêts, pour des fleuves, pour l'océan, pour la planète. L'action en justice internationale en matière de climat est très féconde en nouveautés. Enfin voilà, non, il y a des sujets qui se posent qui sont hyper intéressants. Hein. Question de la responsabilité pénale, des États, la protection internationale des droits de l'homme, c'est très récent comme matière, donc voilà. Des trucs qui sont apparus que dans la seconde moitié du XXe siècle, pff, dont les contours sont encore en train d'être définis. C'est pas plutôt l'autonomie de la Corse qui serait envisageable? Bah, c'est en cours de discussion avec les élus corses, puisque ça a été annoncé par Sébastien Lecornu à la fin du dernier quinquennat. La question du statut de l'île de Corse et de son autonomie est en cours de discussion. Elle en a déjà une partiellement. C'est déjà une collectivité locale, qui est le Parlement corse a déjà un certain nombre de répartitions, de pouvoirs, etc. Mais c'est pour ça que je ne sais pas ce qu'on appelle l'indépendance. Enfin, faut préciser de quoi on parle quand on parle d'indépendance. Enfin, l'indépendance de quoi? Avoir sa propre monnaie, avoir sa propre armée, sa propre marine, son autonomie énergétique, fiscale, budgétaire, économique. Je crois que le seul département autosuffisant est la Vendée, mais je suis pas sûr de l'info. Autosuffisant en matière de quoi? Genre comme Monaco. Mais Monaco, ils sont autonomes que dalle, hein. Monaco, ils sont autonomes de rien du tout, hein. Leur électricité, ils n'ont pas une seule centrale électrique, ils n'ont pas de. Je vous rappelle quand même que Monaco n'a pas de terre cultivable. Enfin, tu vois, il y a des camions qui arrivent tous les jours à Monaco pour leur livrer de la bouffe, hein. Enfin, c'est pas grave, c'est de l'interdépendance, on est tous dans le sac, mais. C'est pour ça que quand je parle d'autonomie, autonomie de quoi? Avec la mondialisation, il y a peu de pays autonomes. C'est vrai. Oui, bien sûr, l'interdépendance a jamais été aussi importante. Et du pétrole. Oui, non, mais c'est ça. Hein, les Porsche à Monaco, vous croyez qu'elles roulent avec du pétrole qui est issu du port de Monaco? Pas du tout. minutes pour envahir Monaco. Ouais. Et encore, si ça bouchonne un peu. À part Cuba, vite fait, c'est compliqué. Ah, Cuba, ils sont autonomes de rien du tout, hein. Cuba, quel enfer. 95% de la bouffe consommée à Cuba est importée, cultive rien du tout. Leur pétrole, évidemment, pendant très longtemps, venait de l'URSS. Médicaments, je t'en parle même pas. La Corée du Nord, ils sont méga dépendants de la Chine. Donc bref, tout ça pour dire, c'est très intéressant la politique, la notion d'indépendance, etc. Mais à un moment, la réalité brute, matérielle, physique des choses fait que l'autonomie, l'indépendance. Légalement, la France récupère Monaco s'il n'y a pas d'héritier au trône. Ah bon? Ça veut dire quoi la France récupère? Ça devient quoi Monaco? Un département, une région? Ils sont même sous perfusion, la Corée du Nord. Ah ouais, non, la Corée du Nord, c'est moche, hein. Le système solaire est à peu près indépendant. Ouais. Grâce au soleil. T'es marrant, toi. Le jour où il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de photosynthèse, et les humains, ils sont marrants. Faut les éclairer comment, les lampes, pour qu'elles continuent à pousser, à nous nourrir? Avec des lampes? Avec des bougies? Monaco, c'est déjà la France. Non, Monaco, c'est un pays souverain qui a des traités avec la France qui prévoient tout un tas de trucs. Merci Quintoette pour ton Prime. Même dans le système solaire, c'est majoritairement importé à la base. Oui, c'est ça. Même destin du soleil et de finir en supernova. Ouais, et on ne consulte pas comme par hasard, on ne demande pas notre avis. Vous croyez qu'on est d'accord, nous, pour que le soleil il explose là? M'énerve ça. Une résolution contre les supernovas. Oui, voilà, on va voter une résolution. Moi, je vote contre le réchauffement climatique. Votons une résolution. On n'a qu'à faire sécession et trouver une autre étoile. Le soleil n'est pas assez massif pour finir en supernova. Ah bon? Et en plus, ce sera décevant. En plus, on n'aura pas le droit au feu d'artifice. M'énerve ça. Ça se la pète, ça se la pète. Même pas foutu de faire une supernova qui a un peu de classe. Jeff Bezos, il va nous négocier un truc, ça va bien se passer. Finalement, c'est la taille qui compte. Et ça t'inquiète? Bill Clinton va nous sauver. Ah bah j'espère bien. J'espère bien. Bezos, il va tout acheter et basta. Ouais, mais même que c'est même plus lui qui a la plus longue parce qu'on a appris que Bernard Arnault, il était repassé devant, c'est la première fortune mondiale. Nananer, il a perdu le concours de bite. Cocorico. Ouais. Ouais, mais plus maintenant. Ah, ça a rechangé? Même la France est dépendante en énergie, minerais et importation de médicaments. Ouais. Il est resté moins d'une heure. Ah merde. Bon, une heure, c'est suffisant pour descendre une bouteille de champagne. C'est ma faute, j'ai commandé sur Amazon hier. Le sgeg français a OP. Ouais, non, t'as commandé sur Amazon, bah ouais, c'est les courses de Noël, ça a enrichi Jeff Bezos. C'est justement cette bouteille de champagne qui l'a fait descendre dans le classement. Bezos, c'est numéro 4, c'est Musk numéro 1. Ah oui, pardon, c'est Musk, en plus je les confonds. Pardon, c'est Musk. C'est Musk qui est repassé devant Bernard Arnault. On a des champions français et... Et on se fait dépasser par des Américains, c'est moche quand même. Go vous abonner pour faire baisser Bezos. Oui, si vous vous abonnez avec Amazon Prime à la chaîne Twitch de Jean Massier, je vous rappelle hein, que si vous vous abonnez avec Amazon Prime, vous utilisez l'argent de Jeff Bezos qui va dans ma poche. Et du coup, vous faites baisser Jeff Bezos dans le classement. Donc je vous invite à faire descendre Jeff Bezos dans le classement des fortunes mondiales en vous abonnant à ma chaîne. Du coup, scission chez LFI, Ruffin fait bonne part. Tu veux dire rapport à Bernard Arnault? Non. Non, il n'y a pas de scission chez LFI. Pourquoi il y a une scission chez LFI? J'ai pas entendu parler de scission. Merci Tordek pour ton resub. Et merci Effet pour ton resub. Prime, c'est l'abonnement le plus worth du monde. Bah ouais, parce que tu peux soutenir Jean Massier avec ça. Aucun autre abonnement ne vous offre la possibilité de soutenir Jean Massier. Sympa. J'ai organisé une cagnotière pour Bernard Arnault si vous souhaitez participer. Manuel Bompard va prendre la tête de la France insoumise, je crois. Oui, mais c'est une continuation. Alors pour le coup, Manuel Bompard qui prend la tête de la France insoumise, enfin qui devient coordinateur. Merci disque dur. Merci disque dur pour ton raid. Bonjour à vous, bienvenue. On est en train de papoter, hein, on s'emmerde. On discute, c'est un stream très chill du vendredi. On était en train de parler de notre champion français, Bernard Arnault, qui a été l'homme le plus riche du monde pendant une heure avant de redescendre dans le classement. Et j'étais en train d'inciter tout le monde à s'abonner avec Prime, puisque si vous vous abonnez avec Prime, vous utilisez l'argent de Jeff Bezos pour me le donner directement, ce qui fait baisser Jeff Bezos dans le classement des plus grandes fortunes, ce que je vous invite à faire, du coup. Je sais plus ce qu'on disait. Toi, t'es à quelle vitesse, plutôt course à pied ou avion? Qu'est-ce que c'est que cette question bizarre? J'ai l'impression que c'est encore les questions d'Ardis. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce qui vous a embrouillé le cerveau, celui-là encore? En plus, attends, c'était quoi sa dernière vidéo à Ardis? J'avais vu, j'avais bien aimé. Je dis ça alors que j'aime bien toutes ces vidéos. C'est quoi la dernière que j'ai vue? Ah, c'est la vidéo sur Fortnite qui était pas mal. C'est la dernière que j'ai vue. Ah bah c'est la dernière qu'il a sortie. Exactement. La vidéo sur Fortnite, j'ai trouvé cool. Voilà. On théorisait sur la vitesse à laquelle s'écoule le temps. Il y a Étienne Klein qui a sorti un bouquin qui s'appelle Le facteur temps ne frappe jamais deux fois. Je crois que c'est le titre du bouquin. Le facteur temps ne frappe jamais deux fois, ouais. C'est quand ton prochain live Flight Simulator? Alors, je me suis offert des cadeaux de Noël, qui fait que maintenant, pour faire du Flight Simulator, il va falloir que je me mette sur l'autre bureau. J'attends encore 2-3 trucs, mais le but, c'est que je puisse vous faire des live Flight Simulator avec un setup spécial Flight Simulator, avec un écran spécial et tout. Donc ça va prendre un peu de temps. Peut-être que je le ferai en partie ce week-end. Mais c'est pas sûr. C'est pas sûr. Vous avez vu, le maire a mis en place un numéro vert contre l'inflation. Mais vous savez qu'on rigole les numéros verts, tout ça, on rigole, mais ça marche assez bien les numéros verts en fait. C'est pas pour rien que l'État s'amuse à en créer tout le temps, hein, pour tout un tas de problèmes. C'est que c'est un outil qui est plutôt pratique pour faire passer des informations spécifiques à des publics en demande sur des sujets précis. Ça sert à quoi pour l'inflation? Ça sert à orienter les gens qui ont besoin d'aide pour lutter contre l'inflation. L'État a créé beaucoup de dispositifs spécifiques de lutte contre l'inflation. Et si des personnes se posent la question de savoir à quoi ils peuvent avoir droit, le numéro vert peut leur permettre d'avoir une réponse. Et ça, c'est pratique. Donc en général, en fait, quand l'État met en place des dispositifs, souvent on a un problème d'information du public. Vous connaissez comme moi le problème du non-recours au droit. C'est-à-dire que y a beaucoup de gens qui ont droit à des trucs, mais qui ne les ont pas parce qu'ils ne les demandent pas. Et souvent, ils ne les demandent pas parce qu'ils ne sont pas au courant que les trucs existent, que les aides existent, qu'il est possible d'avoir accès à une réduction, à une facilitation, à une subvention, à une aide, etc. Donc quand l'État crée des dispositifs nouveaux pour répondre à des problèmes spécifiques, il y a un besoin d'information du public, ça passe par la presse, donc porter l'information, la connaissance des gens via les journalistes et tout, ça passe par des sites internet de plus en plus, parfois par des brochures et des fascicules qui sont distribués dans les mairies, dans les préfectures, à l'hôpital et tout, pour informer les gens. Et puis on peut aussi mettre des systèmes de numéros verts pour répondre aux questions. Donc typiquement un numéro vert contre l'inflation, je ne savais pas que Bruno Le Maire en avait créé un, mais ça peut permettre à des entrepreneurs qui ont leur feuille leur facture de gaz ou d'électricité qui explose, d'appeler le numéro vert et de dire « Voilà, je suis entrepreneur dans tel département, je suis boulanger, ma facture d'électricité vient de tomber, il y a une augmentation de 400%, je ne vais pas pouvoir la payer, j'ai peur qu'on me coupe l'électricité, qu'est-ce que je peux faire ?» Et la personne au téléphone peut lui dire « Très bien, je vais prendre votre numéro SIRET, je vais m'en renseigner, vous avez le droit de machin, vous pouvez saisir truc, elle peut donner de l'information, des contacts, de auprès de qui il faut se rapprocher, etc. » Et à la fin du coup de téléphone, l'entrepreneur il peut dire merci, je vais donc me rapprocher de ma chambre de commerce et d'industrie pour faire la démarche, etc. Voilà. Donc ça aide les numéros verts, contrairement à ce que je sais qu'on en rigole beaucoup, les numéros verts et tout, parce que c'est vrai que c'est facile et ça demande peu d'efforts au gouvernement, mais en fait, s'ils en créent autant, c'est souvent parce que c'est plutôt pratique, ça aide. Les numéros verts sur la canicule, pareil, c'est important. Les numéros verts pendant la canicule, il y a des gens qui appellent le numéro vert en disant « Je suis inquiet, ma grand-mère, j'ai pas de nouvelles d'elle, elle n'a pas répondu au téléphone hier, elle habite loin de moi, qu'est-ce que je peux faire et tout. » Et voilà. Et donc il y a des gens inquiets à qui on donne de l'information. Essayez d'appeler un voisin, un autre membre de la famille. Et si vous avez vraiment pas d'informations, vous pouvez appeler le 15, qui peuvent aller checker si elle va bien et tout. Voilà. C'est juste pour les professionnels. C'est pas que pour les professionnels, hein. Justement, un numéro vert, ça peut permettre aussi de savoir est-ce que ça me concerne ou pas. Tu peux créer un numéro vert où des gens appellent en disant, mais du coup, je sais pas, j'ai entendu le ministre dire qu'il y a une aide, machin, est-ce que ça me concerne? Et la personne peut te répondre, non, l'aide est réservée, machin, donc c'est pas pour vous. Ah d'accord, merci, j'avais un doute. Voilà. Il y a quelques mois, expliquant que c'était souvent des services pas top avec un très mauvais niveau de formation des téléconseillers. Ah oui, alors ça, par contre, les numéros verts, effectivement, c'est sous-traité à des entreprises privées spécialisées dans les numéros verts. Et en fait, les téléopérateurs ne font que lire un script sur un écran. Pas inutile, mais insuffisant. Ah oui, clairement. Ah bah, de toute façon, tu peux pas faire reposer l'intégralité d'une stratégie que sur un numéro vert, hein. C'est pour ça que je vous expliquais l'autre fois que souvent les politiques publiques sont plurifactorielles et pluridisciplinaires et qu'il faut une action dans plusieurs secteurs. L'information du public, c'est une des informations. La mise à disposition et l'accessibilité des droits, c'en est une autre. La simplicité, la numérisation, etc., etc. Mais c'est toute une chaîne de trucs. Si tu veux qu'une politique publique soit efficace, tu dois t'attaquer à plein de problèmes. Et là, on ne parle que de l'information du public. C'est pour ça que les gens qui tweetent MDR, le gouvernement, il va encore nous sortir un numéro vert. Oui, c'est drôle sur le moment, mais souvent, ce n'est pas le seul étage de la fusée mis en place. Il y a plein d'autres trucs. Et le numéro vert ne sert qu'à participer à l'information du gouvernement. Est-ce que quelqu'un sait si en cas de coupure de courant dans une entreprise, les employés sont mis au chômage partiel? Eh bah tiens, t'as un numéro vert que tu peux appeler justement. Je sais pas, il y a un numéro vert sur les coupures sur les délestages. Ou pas encore, je sais pas. Tu vois, typiquement, très bonne question. Je sais pas, j'ai pas la réponse, j'ai un doute, j'en sais rien. Bah les salariés et le patron peuvent appeler le numéro pour dire du coup on fait quoi si jamais il y a une coupure de courant et qu'on peut pas travailler? Dans la télécommunication, ça fonctionne pas vraiment avec un script. Faut pas faire sous-estimer le formation mise en place dessus. Pour avoir travaillé dans un système similaire, on a effectivement comme un cahier des charges à remplir durant l'appel. Cependant, chaque appel est différent et doit être traité dans les meilleures façons possibles. Oui, bien sûr. Non, non, ce que je veux dire, c'est que quand je parle de script, c'est les personnes qui lisent un ordinateur, elles ont effectivement un nombre de questions à poser. Ça leur permet de remplir des cases pour apporter la meilleure réponse possible. Mais effectivement, c'est justement l'intérêt des numéros verts. C'est comme toutes les situations sont différentes les unes des autres. On ne peut pas avoir une réponse universelle pour tout le monde. Donc je dis pas ça pour mépriser les personnes qui font ce boulot-là. Merci Florence R pour ton prime. Florence IR, pardon. Je te suis depuis peu. Ah, tu me suis? Elle est nulle cette blague. Oh putain. Oh la lourdeur du mec. Je te remercie sincèrement pour la qualité de ton stream. J'apprends constamment de nombreuses choses sur le fonctionnement du système politique français et les autres sujets abordés. Eh ben merci à toi. Ça fait zizir. 2023, les coupures, vous souciez pas, ils laisseront passer Noël avant de nous la mettre. Qui va te la mettre? Qui a envie de te couper le courant? Et par ailleurs, c'est pas, bon, voilà, c'est pas une décision. Je rappelle que les délestages du système électrique, ça dépend de la météo, ça dépend de la disponibilité en puissance produite chez nous, de notre capacité à importer éventuellement. Te retourne pas tes suivis. Les décideurs, nous sachons. Comment il s'appelle le journaliste américain qui va dans des rassemblements de Trumpistes et qui leur pose des questions sur le complotisme? Qui leur dit, mais enfin, pourquoi selon vous Biden aurait intérêt? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y gagne? Meurice faisait ça un peu, ouais. Ouais, Meurice faisait ça. Je me souviens, Meurice, il faisait ça. Je dis, mais pourquoi il ferait ça? Il le fait encore? Je sais pas, j'écoute pas la radio. Le Daily Show, ouais. Sandrine Rousseau qui suggère de fermer les aéroports en cas de tension sur le réseau. Ouais, enfin, c'est pas la seule à proposer ça. Vous avez eu une coupure à Paris, il paraît. Hier soir, apparemment, il y a eu une coupure de courant à Paris à cause d'un défaut matériel. Voilà. Ça a duré quelques heures. Il serait très drôle que RTE coupe le courant aux centrales nucléaires. Bah, c'est-à-dire que. D'après toi, il vient d'où le courant des centrales nucléaires? Les autres lui dites pas. C'est moi où tout le monde devient parano là-dessus? Oui. C'est facile des éoliennes. Oui, c'est les éoliennes qui alimentent les centrales nucléaires en électricité. Les centrales ont vraiment besoin d'être raccordées à d'autres sources d'électricité. Oui, mais ça, c'est normal, toutes les centrales. Oh, peut-être pas les centrales diesel. Peut-être qu'il y a un démarreur à l'ancienne. Un petit démarreur électrique qui démarre un petit moteur de temps, qui lui-même démarre un V6, qui lui-même démarre l'énorme V18 de 300 litres de cylindrée, qui va te faire du courant, mon pote. Alors celui-là. Un starter sur la batterie. Ah ouais, c'est un kick. Ouais, c'est ça. T'imagines le technicien EDF qui arrive avec sa lanterne dans le noir, dans la neige, dans la centrale diesel. Il est tout seul, il n'y a pas de courant, on est dans le noir. Et puis il arrive, il trouve le kick et puis il commence à kicker comme ça pour démarrer la centrale. Les éoliennes alimentent les centrales nucléaires et les centrales nucléaires alimentent les éoliennes. Ça y est, j'ai réconcilié les écolos pro et les anti. Oui. Oui. D'ailleurs, les éoliennes, elles tournent pour refroidir. C'est un petit moteur électrique qui actionne l'hélice de l'éolienne et ça sert à refroidir le climat. Ça marche pas très bien, hein, on va pas se mentir. En tant qu'exploitant EDF, j'ai mal à mon cocoro avec ces propos. Ah ouais, t'es démarreur de centrale? Ça se passe comment alors? Et c'est pareil pour les centrales à charbon, vous croyez que ça marche comment les centrales à charbon? Pareil, hein, pour démarrer une centrale à charbon, t'as un ouvrier, il arrive avec un briquet, puis il allume un petit allume-feu comme ça, comme ton barbecue, hein. Puis il balance l'allume-feu dans un tas de charbon, puis il souffle dessus un peu, puis ça fait des braises, et puis il remet du charbon à grande pelletée, puis ça démarre la chaudière, et puis ensuite ça démarre les autres, et ainsi de suite, hein. Avec du journal, oui, du papier journal. Il arrive avec son Figaro sous le bras. Alors. Avec une clope, c'est ça. Le mec, il arrive la clope au bec. Il faut un peu de pétrole. Et ça fait démarrer. Ouah, j'apprends tellement de choses. Non, je sais pas. Centrale à charbon, vous croyez que les mecs ils pelletent comme ça, comme au siècle dernier? Des grandes pelles à charbon. Bah oui, faut charbonner. Charbonner, comme on dit. Le barrage électroélectrique fonctionne en reverse pour justement consommer de l'électricité. Ouais, il y a une possibilité de stockage de l'énergie grâce aux barrages qui peuvent fonctionner en reverse, ouais. Pour les centrales à charbon, c'est pas manuel, c'est les éoliennes, on a dit. Ouais, on peut pas démarrer une centrale à charbon s'il n'y a pas de vent dans le département. Les centrales au gaz, c'est toujours avec un briquet et un déo. La centrale au gaz, tu prends un déo Axe, un briquet, et t'allumes la centrale et hop là, ça fait chauffer les chaudières. En reverse, ils font remonter de l'eau. Oui, absolument. C'est hyper intéressant, mais les technologies de stockage de l'énergie, ça existe. Ça peut avoir son efficacité dans certains cas. Et c'est hyper intéressant, effectivement, les barrages, lorsqu'il y a une surproduction d'électricité, on a la possibilité de faire fonctionner les barrages dans l'autre sens, c'est-à-dire de prendre de l'eau en bas et de le faire remonter dans le réservoir. Et ça sert en fait à stocker de l'énergie enfin, potentielle, parce qu'on prend, on prend de l'eau qui nous resservira plus tard quand on sera en demande d'énergie à faire fonctionner les turbines et à rebalancer l'électricité. Alors, tu as une déperdition d'énergie entre les deux, parce que ça ne peut pas se faire à somme nulle, mais ça existe quand même. Et certains barrages le font, ouais. Ouais. On appelle ça du pompage turbinage. Alors, ça peut pas être une solution miracle, attention, hein. Ça ne peut pas être une solution miracle. Mais d'ailleurs, je crois que c'est Monsieur Bidouille qui avait fait une super vidéo là-dessus, ou alors c'était pas lui, je sais plus, sur des systèmes similaires qui existent à inertie. Des espèces de centrales. Oh, le réveilleur, c'était peut-être le réveilleur, ouais. Ouais. Des espèces de centrales à inertie hyper intéressantes où, en gros, quand on a de l'électricité, on commence à faire tourner d'énormes poids, des espèces de gros gyroscopes qui commencent à tourner, qui sont très très lourds. Et ensuite, quand il n'y a plus de courant, on récupère l'énergie cinétique du truc en mouvement pour rebalancer du courant dans le réseau. Alors, toujours pareil, ça ne peut pas se faire à somme nulle, mais ça peut être utile ponctuellement. Un volant d'inertie, voilà, je me souviens du terme grâce à toi. Un volant d'inertie, merci. Il y a les tours à contrepoids aussi, ça existe, ouais. Quand tu as de l'énergie, tu fais monter un poids en altitude, donc tu crées une énergie potentielle avec la gravité. Et quand tu as besoin de courant, tu fais descendre lentement le poids. Bah, vous vous souvenez les horloges de nos grands-parents? Je sais pas si vous avez connu la grande horloge dans le salon là. Avec les poids qu'il fallait remonter une fois de temps en temps, mais en fait le poids tu le montais d'un mètre et ensuite il descendait lentement et c'est son poids qui faisait tourner le mécanisme de l'horloge. Alors c'est pas d'une efficacité énergétique incroyable, mais à certaines échelles ça peut permettre d'alimenter en électricité pour des besoins. Voilà. Les horloges à coucou. Bah oui, les horloges à coucou avec le poids qui descend. Voilà. Mais donc bref, ce mécanisme, le principe physique du fait d'avoir la gravité qui va jouer en ta faveur, c'est un truc que tu peux utiliser dans de la production d'électricité pour des besoins ponctuels, etc. Intéressant. Ouais, c'est des gros onduleurs. Quand il n'y a plus de courant, on temporise la coupure de courant. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu chez Hugo Décrypte que les énergies renouvelables ont explosé, que d'ici 5 ans, on produira plus que tout ce qu'on a produit en renouvelable depuis 20 ans. La quantité d'investissement en faveur des énergies renouvelables est effectivement phénoménale en ce moment. On n'a jamais autant investi dans le renouvelable qu'en ce moment. Donc ça ne va faire que monter. Enfin, a priori, l'ambition politique, c'est de continuer à augmenter la production d'énergie renouvelable, notamment éolien. Ah, c'est utilisé en Afrique, ça? Ok. C'est LED à la maison, c'est pour les lumières rechargées à la main via un contrepoids pour toute la soirée. Hein, c'est pas con ça. Oui, ça peut alimenter une ampoule, ouais. Tu mets un petit dynamo, un contrepoids et. Oh ouais, c'est pas con comme système. T'as pas à éteindre l'ampoule quand tu vas te coucher et elle s'éteint toute seule. Ça peut même probablement se fabriquer tout seul à la maison, hein, avec une dynamo de vélo, une roue, un ou deux engrenages et youpla boum. Hein. Après, on peut que faire mieux vu le retard qu'avait pris la France dans les renouvelables par rapport à certains de nos voisins. Oui. Ah oui, non, on pouvait que monter. Oui, ça, je suis assez d'accord, oui. Fabriquer soi-même, ce serait sûrement un peu bruyant. Un do it yourself chez Massier pour pallier les délestages prévus. Et tu mets un moteur électrique pour remonter le poids quand il est en bas. Do it yourself, comment monter ta propre émission? Ouais, en partant de zéro. J'ai un doute sur la quantité d'énergie. Ah, c'est pas phénoménal, attention, hein. Ce genre de solution, ça, c'est des petits, c'est des faibles voltages. Hein. C'est des faibles voltages ou ampérages, d'ailleurs, je sais jamais. Non, c'est voltage, je sais pas. Non, ça peut pas faire fonctionner un frigo à long terme, ça peut pas faire fonctionner un four, ça peut pas faire. Non, c'est pour du ponctuel, pour de l'éclairage, pour du. Puissance, voilà, puissance, on va dire puissance, faible puissance. Ça peut pas faire tourner un PC. La France n'est pas en retard par rapport aux objectifs européens, mais par rapport à ses propres objectifs qui sont plus élevés que ceux de l'Union européenne. D'accord. Ok. Donc il va falloir construire un max de centrales nucléaires ou à gaz pour avoir exactement l'équivalent du parc ENR qui va être installé. Je rappelle qu'il faut en effet construire l'équivalent électrique des ENR pour pallier leur intermittence. Ah, oui, mais ça c'est prévu. La construction de nouvelles centrales nucléaires, ça a été annoncé par Emmanuel Macron. Un Raspberry Pi à 5 volts, ouais. Chut, vous allez réveiller les gens Cozouz. Janko, il continue à dire des dingueries. Hein. Je l'ai réécouté récemment, il continue à faire des conférences, etc. Et il continue à dire des trucs du genre, faut jamais lire le journal. Le journal n'a aucun lien avec la vérité. Ce genre de phrase. Il te lâche des trucs comme ça en pleine conf. T'es en mode, mais ferme ta gueule, putain. Continue à parler d'électricité et d'énergie. Beaucoup moins qu'avant. En tout cas, il l'a refait récemment, ça m'a ressoulé. J'étais en mode, oh là là. Tu dis la même chose pour la télé. Moi? Ah non, c'est pas mon genre, non. Ah non, 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 non. Je Ah ouais, parce que les fact-checkers de tes journaux sont fiables. Bisous Julien Pain. Janko dit des trucs très bien sur l'énergie, mais tout le reste, il est aux fraises. Non, il dit des trucs bien sur l'énergie, il dit des trucs bien sur le nucléaire, sur la production d'électricité, sur le changement climatique et les mécanismes du changement climatique. Non, il dit beaucoup de choses très bien, hein, sur la physique, sur la chimie, sur l'ingénierie, etc. Mais effectivement, dès qu'il commence à mettre un pied dans les sciences politiques, les sciences sociales, les sciences humaines, il te lâche des trucs, t'es en mode oh là là. Sur la démocratie, ah oui. Mais c'est intéressant c'est intéressant de voir le niveau de subtilité, de détail de ses analyses dans son domaine de compétences, l'énergie, le climat. Et c'est marrant de voir la faiblesse de la rigueur qu'il met à décrire des phénomènes dans d'autres sciences qu'il ne maîtrise pas. Tu pourrais croire que, vu la compréhension qu'il a de la complexité du débat public sur l'énergie, il pourrait raisonnablement se dire que dans d'autres domaines qu'il maîtrise moins, ça doit être aussi très complexe et un peu plus compliqué que des phrases un peu à l'emporte-pièce. Et bon. T'as des exemples? Ouais, il avait expliqué bah justement que les journalistes n'ont aucun rapport avec la vérité, tout ce qui est écrit dans le journal c'est faux, en matière de climat, d'énergie, etc. Donc il fait, donc il, enfin voilà, il fait les médias, tout est égal à tout journaliste dans toute rédaction, en tout temps et à tout point de l'espace, etc. Dès qu'il parle d'électricité, c'est faux. Enfin bref, espèce de truc de confusion totale. Par différence avec avec la rigueur qu'il va apporter quand on parle d'électricité, il rentre toujours dans le détail et il a raison de le faire. Il avait expliqué que la France est un pays communiste. Et c'était dans une. Je sais plus si c'était dans une audition à l'Assemblée qu'il avait dit la France, c'est le dernier pays communiste d'Europe de l'Ouest. Pour des députés qui le regardaient en mode. Il avait expliqué que. Alors après, bon, mais ça c'est le cas de beaucoup de gens, il a une grille de lecture et d'analyse de l'histoire basée sur la quantité d'énergie disponible qui, selon lui, est le seul élément. La seule clé de lecture des phénomènes du monde, c'est la quantité d'énergie disponible. Ça, il l'a dit à plein de reprises. Donc, il est capable de t'expliquer que les printemps arabes ont été provoqués uniquement par l'inflation due à la baisse de la quantité de pétrole disponible à un moment donné. Voilà. C'était surtout pour marquer les Français qui sont attachés à l'égalité. Ouais. Non, en plus, c'était même pas ça. Excuse-moi, tu reviens sur la France et un pays communiste. Il avait expliqué ça dans un autre contexte. Il parlait de réglementation et planification en matière d'énergie. C'est pareil pour tous les technobros de la Silicon Valley qui s'y connaissent très bien en code, mais ils pensent que tout souci du monde, ce sont des bugs à corriger. Oui, non, non, mais non, non, bien sûr, oui, je suis d'accord avec toi. Les crypto-bros, enfin, les cryptos, pas que les cryptos, mais effectivement, tu as un mode de pensée. De certaines personnes qui sont dans le code informatique, etc., qui vont voir le monde comme un grand code à livre ouvert et qu'il suffit de corriger des bugs, je suis assez d'accord avec toi, donc c'est très solutionniste. C'est très. Enfin, quand tu vois Elon Musk parler de liberté d'expression, t'es en mode oh, le mec il est aux fraises. Enfin, il a une manière de lire le truc qui est un système bien paramétré. Un système bien paramétré ne peut pas mal fonctionner, il suffit de changer les paramètres. Not all dev. Non, 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 je sais, not all dev. Mais t'as des trucs similaires. Je dis pas ça pour. Attention, parce qu'on pourrait croire que mon discours, il vise à caricaturiser l'ensemble des politiques, l'ensemble des mondes, des gens qui sont dans l'ingénieur, dans la recherche, dans les mathématiques, etc. Par opposition aux gens qui sont des sciences sociales et politiques, qui eux ont une noblesse d'âme supérieure et une fine lecture du monde, etc. Non. Là aussi, tu as des sociologues ou des gens qui ont une lecture du monde uniquement basée sur les mondes de la pensée seule est capable de changer le monde, etc. Non, ça fait du bien aussi de rappeler que parfois il y a des phénomènes physiques un peu basiques qui commandent eux aussi des réalités et des difficultés, etc. Jancovici a plutôt tendance à dire en interview quand il ne maîtrise pas un sujet. Oh bah disons qu'il pêche par omission parfois alors. Parfois il oublie qu'il maîtrise mal certains sujets et il rentre dedans les deux pieds en disant des énormités qui apparaissent aux yeux des gens qui maîtrisent ces sujets-là comme des énormités aussi énormes que des gens qui n'y connaissent rien en énergie et qui disent des conneries qui arrachent l'oreille de Jancovici à... pour de bonnes raisons. Pour bonne raison. Sur quel sujet? Eh ben on l'a dit, médias, sciences politiques, histoire. Médias, sciences politiques, histoire, notamment. C'est comme si t'expliquais la révolution de 1789 uniquement par les hivers très rudes de 1787 et 1788. Parce que ouais, les hivers ont été très durs, les récoltes ont été mauvaises, il n'y avait pas beaucoup de blé, du coup le prix du pain a augmenté, du coup les Français ils avaient de moins en moins à bouffer, du coup ils se sont révoltés. Disons que c'est un peu plus compliqué que ça. Les journaux mentaient déjà à l'époque en plus. Oui. Jancovici m'a pas mal cringe dans son explication d'une abolition de l'esclavage intervenue seulement par substitution technique présente de la main-d'œuvre. C'est pas parce qu'on a lu Rousseau qu'on a voulu interdire l'esclavage, décontextualisation complète, aucune culture historique. Putain, je me souviens de ce moment-là, Alex. Je me souviens, moi aussi, j'ai cringé à max quand j'ai entendu Jancovici parler de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Et là, effectivement, il a repris à son compte un narratif qui est très présent chez les racistes américains, qui est de la fin de l'esclavage ne doit rien à la guerre de sécession et au progrès politique, mais doit tout à une évolution du climat et à un shift de méthode disponible qui a évolué. La baisse du prix de l'énergie dans les États du Nord qui a fait qu'ils ont pu substituer aux esclaves des machines et que dans les États du Sud c'était plus compliqué, etc. Et je suis d'accord avec toi, j'ai cringé de ouf quand je l'ai entendu dire ça, j'étais en mode oh non, oh non. Il nous ressort l'argument des fachos de la mécanique explique le monde et tout. Oh non, quelle horreur. Ah non, c'est... En 2020, on a réussi à imposer... à réduire les libertés individuelles suite à une situation compliquée, le Covid, dans le cas d'une pénurie d'électricité, dans quelle mesure le gouvernement peut-il imposer des règles? Bah dans la même mesure, dans le cadre d'un état d'urgence. Vous savez, vous avez entendu parler du choc pétrolier, des chocs pétroliers, dans les années 70, ça vous dit quelque chose? Choc pétrolier, ça a été un moment où le monde a quand même été pas mal bousculé, puisque le prix du baril de pétrole a explosé. Sur décision des pays de l'OPEP, etc., 71 et 73, le prix du baril de pétrole a explosé. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? outre le fait que les constructeurs de bagnoles se sont mis du jour au lendemain à travailler sur des cylindrées plus petites, les gens ont complètement oublié ce qui s'est passé et la réalité que c'était pour les gens en France. Il n'hésite pas à qualifier les machines d'équivalent esclave. Un litre de pétrole égale 20 esclaves, etc. Oui, mais ça, pour le coup, je peux comprendre. Je peux comprendre cette logique de Jean Covici de nous faire prendre conscience de la quantité d'énergie qu'on utilise en faisant une équivalence de quantité de personnes qui bosseraient pour toi si on n'avait pas cette source d'énergie. Ça, j'ai l'idée. Pendant les chocs pétroliers, il y a eu une limitation de la vitesse sur les autoroutes à 110 km/h. Il y a eu un rationnement du carburant. J'ai bien dit rationnement. Donc les gens ont été rationnés en carburant. Il y a des entreprises qui ont été mises à l'arrêt de force. Ouais. Ah non, mais les gens ont complètement oublié. Je trouvais le mot esclave pas nécessaire. Oui, ouais, oh oui. Esclave énergétique. Bon, tu peux dire travailleur si tu préfères. Mais est-ce qu'il veut mettre à, il veut mettre à notre attention le fait que c'est gratuit. Ce que je comprends. Donc voilà, donc à la question est-ce qu'il est possible de restreindre les libertés en cas de situation tendue sur la disposition d'énergie, d'électricité, etc. Bah oui, évidemment, bien sûr. Mais oui. Par définition, hein. On n'a pas le choix, on n'a pas le choix. En même temps, ceux qui avaient 20 ans en 71 aujourd'hui. Ah, ils sont peut-être pas sur mon stream, c'est vrai. Oui, mais pas dans la durée. Ah bah non, évidemment, bah non, c'était ponctuel, c'était le temps que la situation dure. Bah, de la même manière que le confinement s'est arrêté quand le Covid a reculé. La différence avec le choc pétrolier a été mondiale et a touché tout le monde, la pénurie d'électricité et la responsabilité de la gestion d'EDF et des centrales qui auraient pu être évitées. C'est là où on risque de ne pas être totalement d'accord quand on dit que ça aurait très bien pu être évité, la situation des délestages, etc. Oui, ça met l'accent sur un sous-investissement, etc. Mais il ne faut pas non plus voir que de la causalité partout et directe. C'est plus compliqué que ça. C'est pas que le gouvernement qui est méchant et tout, il y a aussi eu des contingences et des difficultés ponctuelles qui sont du fait de personnes et que c'est pas une question de bonne gestion, de mauvaise gestion. Tu vois? Le fait que le Covid ait dérégulé et perturbé l'économie mondiale, retardant les travaux de remise en circulation des réacteurs nucléaires qui étaient en cours de révision, bon bah c'est pas de la faute du gouvernement. Le fait que Poutine ait déclenché la guerre en Ukraine, créant de véritables tensions sur les prix de l'énergie mondiale, etc., c'est pas du fait de et d'approvisionnement en gaz, c'est pas du fait du gouvernement. Donc, je veux bien l'argument de la responsabilité du gouvernement, etc., mais c'est parfois un chouïa plus compliqué que ça. Et qu'on dit que gouverner, c'est prévoir, mais c'est aussi faire face à l'imprévu. Et nous, on anticipe. Nous, on ne peut pas tout anticiper tout le temps. Pour le dire autrement, si Jean-Luc Mélenchon avait été élu président de la République dès 2017, on aurait probablement quand même des problèmes de courant et d'approvisionnement de courant en janvier 2023. Voilà. Bien plus, je ne sais pas. Je ne sais pas à moi d'en dire. Je prête pas des mauvaises intentions à Jean-Luc Mélenchon, mais voilà. Impossible de savoir. Bah oui, on va pas réécrire l'histoire, je suis d'accord avec toi, mais enfin bon, toujours tout ça pour redire que le Covid, la guerre en Ukraine, tout un tas de difficultés contextuelles, etc., ce sont des choses qui sont tombées sur le coin de la gueule du monde entier et qu'on n'a pas souhaité, qu'on n'a pas voulu, qui n'a été souhaité et voulu par personne. Et voilà. Et ça nous rappelle notre dépendance à ce genre de phénomène. La guerre en Ukraine, ça a bien été souhaité par Poutine au minimum. Oui, mais enfin bon, je sais pas si dans ses cauchemars les plus fous, dans ses rêves les plus fous, Vladimir Poutine, il a rêvé de couper le courant aux Français, tu vois. Parce qu'il en avait un peu grosso merdo, rien à branler. J'avoue, en Allemagne, personne ne parle de coupure ici. Bah non, parce que vous avez pas très peu de nucléaire. Nous, on a des centrales vieillissantes qu'il a fallu rénover. Puis on n'a pas autant de centrales à charbon et à gaz que vous. Donc. Poutine, il avait dit 10 jours. Oui, en plus, je pense que. C'est vrai, t'as raison. J'avais cru comprendre que Poutine, il prévoyait une guerre un chouïa plus courte que ça et un chouïa plus facile. Bon vieux charbon à l'ancienne. Ah bah ouais. Si on avait fait mieux certains chantiers, isolation, transport depuis 2017, on serait moins sous tension. Bah non. Il y a eu des coupures de courant en France où c'est encore du domaine du théorique. C'est du domaine du possible, voire du probable, en janvier-février. Pourquoi si on avait fait de... Enfin, je suis pas sûr que vous puissiez accélérer la... Enfin, on n'a jamais fait autant des rénovations thermiques de bâtiments qu'en ce moment. En quoi ça aurait été plus rapide avec Mélenchon? Ça aurait été moins cher peut-être pour les propriétaires de logements? Mais en quoi ça aurait accéléré? On aurait ressuscité Stakhanov. Il n'y a pas un artisan dispo près de chez toi. Bah oui, voilà. Il aurait simplifié ma prime rénov. Ouais, enfin, il aurait pas multiplié les. Il aurait pas multiplié les. Les entreprises de BTP, tu vois. Il aurait forcé la rénovation. Pareil, avec qui? Enfin, c'est marrant, c'est un peu comme le numerus clausus à l'hôpital, tu vois. C'est qu'il y a un moment, je suis le premier à avoir beaucoup de récriminations envers le gouvernement et tout, mais. Enfin, je veux dire qu'il n'y a pas de médecin, il y a pas de... enfin, on manque de médecins. Tu peux pas décider. La création de lits comme ça en claquant des doigts. Il aurait diversifié les énergies. Mais entre 2017 et 2022, il n'aurait pas eu le temps de diversifier grand-chose. C'est très très lent les évolutions des systèmes électriques et production d'énergie. Il aurait rien fixe maintenant, mais il aurait fait des investissements pour le long terme. Oui, non, mais bien sûr, non, mais justement, en fait, c'est ce que j'essaye de, c'est ce sur quoi j'essaye d'arriver, c'est que la politique, notamment en matière d'énergie, ou pour reprendre l'exemple à côté, la formation des médecins, etc., la population médicale, ça prend énormément de temps. Donc quand tu prends le pouvoir, tu hérites d'une situation à un instant T, et tu continues à subir les effets des décisions qui ont été prises plus tôt, mais tu continues à les subir très longtemps. Donc je souhaite, j'espère que si Jean-Luc Mélenchon avait été président de la République dès 2017, il aurait été plus rapide qu'Emmanuel Macron sur les investissements en matière de NR. J'espère pas qu'il aurait arrêté le nucléaire comme il avait promis de le faire. Parce que là, enfin, là, en termes de délestage, ça aurait été autrement plus grave. Mais c'est... Voilà. Jean-Luc Mélenchon n'aurait rien fait, c'est un débile. Non, mais... Arrêtez, arrêtez, calmez-vous. Jean-Luc Mélenchon, c'est ni le Père Noël qui est d'un coup de baguette magique, résout tout dès le matin où il arrive au pouvoir, ni le roi des gros cons qui fait rien et qui a tout faux. C'est plus compliqué que ça. C'est plus subtil. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça demande des investissements, ça demande du pognon, ça demande beaucoup de choses. Pourquoi la gauche est-elle aussi nulle sur les questions énergétiques? Ah, parce que la droite, elle est bonne peut-être? Peut-être éviter de donner des leçons, je pense. Je suis pas sûr que grand monde n'ait de leçons à donner à qui que ce soit. Tu vois, bon. Pourquoi l'écologie se doit d'être de gauche? Ça, c'est toi qui le dis, hein. Parce que elle se doit rien du tout, hein. Elle va très bien, elle t'embrasse. C'est toi qui la places où t'as envie de la placer. LFI, c'est juste un melting pot infâme de cultures disparates qui n'ont surtout pas en commun l'avenir du pays. Oh là là! J'ai l'impression d'entendre les insoumis parler de Macron là. Ouais, si tu veux, si tu veux. Si ça te fait plaisir. De toute façon, la droite est mauvaise en question énergétique parce que Mélenchon, c'est la droite. J'avais oublié. Oh la foi, c'est compliqué. Là, s'il faut prendre en compte en plus les subtilités du positionnement relatif, oula. N'oublie pas que Mélenchon mange des enfants. Ah oui, t'as oublié ça dans ta critique de Mélenchon. Il se nourrit exclusivement de sang de bébé. Ils sont remontés les gens ici ce soir, dis-leur que je leur offre un marin glacé. Non mais non, il y a quelques personnes remontées, mais c'est normal, c'est un chat où on parle de politique. Si c'est vrai, c'est très grave. Prouve-moi qu'on n'est pas dans la mort cérébrale d'un pays. Bah quand je lis tes messages dans le chat, je peux me poser la question, je suis d'accord avec toi. Mais t'inquiète, on est là, voilà, on se supporte les uns les autres, on fait ce qu'on peut, hein. Vous avez oublié de préciser que LFI souhaite dissoudre officiellement la France pour créer le Wokistan. Et pourquoi tout le monde déteste le nucléaire? C'est une question assez intéressante, ça. Indépendamment du débat sur le nucléaire, le débat sur la perception par le grand public du nucléaire. C'est un sujet assez intéressant qui mérite d'être examiné, je pense, indépendamment de la question du débat public sur le nucléaire. Le nucléaire, c'est très spécifique. Le nucléaire civil en France est né d'une volonté politique très forte et un lien très très fort avec le nucléaire militaire. C'était comment elle s'appelle Delphine Batho qui avait expliqué ça dans une interview. Je sais pas si c'était moi qui l'interviewais ou si je participais à une émission avec elle, mais peu importe. Elle expliquait que il y a un problème dans le nucléaire en France, le nucléaire civil. C'est un problème de naissance. C'est que le nucléaire a été conçu comme une politique d'intérêt stratégique national lié au nucléaire militaire, et que donc l'ensemble de la construction de notre politique énergétique autour du nucléaire s'est faite dans une logique militaire, Qui dit logique militaire dit on ne débat pas, on ne discute pas. Et le problème, c'est que du coup, le nucléaire, le miracle de l'atome, tout ça a été présenté aux Français comme un truc formidable dans les années, 50-60, qu'on a construit à balles des réacteurs. À l'époque, il n'y avait pas de débat à la télévision, à l'ORTF ou à la radio sur les bienfaits du nucléaire. Il n'y avait pas vraiment de discussion au Parlement non plus sur ce sujet-là. C'était un peu l'autoritarisme gaullien quand même, hein, on était sur un truc un peu vénère. Il n'y avait pas de convention citoyenne, il n'y avait pas de. Il n'y avait pas d'enquête publique avant d'installer une centrale nucléaire dans quelque part. Hein. Grosso modo, c'était de l'autoritarisme, hein, c'était militaire, quoi. Et donc, on a installé le nucléaire, et malheureusement, les Français, hop là, se sont habitués, se sont biberonnés à cette énergie gratos, pas cher, trop bien. Enfin voilà. Et donc du coup, on méga habitué à cette espèce de miracle nucléaire. Et ça arrangeait bien du coup les intérêts militaires et tout se passait bien. Et en fait, on a commencé à en payer le prix bien plus tard, quand tout le travail de pédagogie autour du nucléaire de fait n'a pas été fait ou très peu. Que la contestation du nucléaire est arrivée dans la vague aussi de la contestation plus globale de l'autoritarisme de l'ancien monde des années 70-80, l'altermondialisme, les modèles alternatifs, etc. Et du coup, on s'est retrouvé dans un moment où la contestation du nucléaire se mariait très très bien avec la nouvelle vague des idées progressistes. Et était très très mal défendu par un État qui en fait n'était représenté que par des costumes cravates ou des galons de généraux, quoi. Quel est le rapport entre les intérêts militaires et le parc nucléaire? Pour faire une bombe atomique, pour le faire très simple, pour faire une bombe nucléaire, une bombe atomique, tu as besoin d'avoir de l'uranium enrichi. Pour avoir de l'uranium enrichi de manière indépendante, tu dois l'enrichir toi-même. Et pour le faire, tu as besoin de centrales nucléaires. Donc l'un et l'autre se nourrissaient et avaient besoin l'un de l'autre. Donc non seulement dans l'après-Seconde Guerre mondiale, on était en plein développement économique, c'est le boom des Trente Glorieuses, ça investissait à balle, etc. Donc il fallait plus d'électricité, donc ça tombait bien. Et en plus, les militaires avaient besoin, pour avoir la stratégie d'autonomie voulue par De Gaulle, etc., d'avoir la bombe. Et pour avoir la bombe, de manière autonome, il faut enrichir soi-même le nucléaire. Donc l'un dans l'autre, ça matchait, centrale nucléaire pour l'électricité des Français et pour l'uranium des militaires. Voilà. Dans les années 50. Oui, je parle bien des années 50, hein. Ça veut dire que les pays n'ayant pas l'arme nucléaire n'ont pas de centrale nucléaire. Non, c'est pas ce que je dis. Là, je vous parle d'un contexte historique spécifique qui est celui de la France des années 50. Où il se trouve qu'il y a eu un alignement de planète entre un intérêt militaire et un intérêt civil. Mais il y a d'autres pays dans lesquels il y a un intérêt civil sans avoir d'intérêt militaire, et ils ont aussi peut-être besoin de ce qu'ils veulent, de nucléaire, de machin, mais c'est spécifique, quoi. Mais voilà. À cause du nucléaire, tout électrique, passoire énergétique du parc immobilier. Très bon exemple. Alors, très très bon exemple. Excellent exemple. On est encore une fois dans les années, dans les, on est dans les 30 Glorieuses. Les Français ont besoin de logements, ont besoin de beaucoup de logements, notamment la génération du baby boom qui commence à avoir l'âge de baiser, pardon, de se marier, d'avoir des enfants. Et donc il faut s'installer. On est dans un moment où on commence à développer le modèle du pavillonnaire. Vous connaissez le pavillonnaire? Les gilets jaunes, les ronds-points, on va faire les courses chez Leclerc dans l'hypermarché, etc. Donc on est à un moment où il faut construire pour pas cher beaucoup de maisons. Et ben ça tombe bien, pour les chauffer, on n'a qu'à foutre des radiateurs électriques partout, parce que les radiateurs électriques, c'est pas cher, vu qu'il y a du nucléaire à côté. Et donc comme on peut les chauffer facilement et balancer les radiateurs à fond, on peut faire des maisons pas trop chères ou des immeubles pas trop chers avec des parois épaisses comme ça, très mal isolées. Pas besoin d'isoler le logement, puisqu'on a du chauffage gratos, quasi gratos. Et boum, on se retrouve avec des passoires thermiques, qui ont toutes été construites dans les mêmes années et tout. Très très bon exemple, le nucléaire a rendu possible cette espèce de problème qui du coup qui se présente aujourd'hui sur les passoires énergétiques. Donc voilà. Ça n'existait pas avant l'isolation des maisons. Si. Bonne grosse maison en pierre, les longères bretonnes, autant te dire qu'il fait frais l'été et chaud l'hiver. Les murs d'un mètre d'épaisseur. Ah ouais. Puis les pierres épaisses comme ça, hein, font une grosse baraque. Bon, il n'y avait pas beaucoup de fenêtres, on va pas se mentir. Ça, la véranda de monsieur et madame Martin, qui voulaient absolument avoir dans les années 80 dans leur pavillon dans les Yvelines, on faisait pas. Mais la véranda mal isolée, on pouvait la faire dans les années 80, puisqu'il y avait des chauffages électriques. Let's go! Ouais. D'ailleurs, l'immeuble dans lequel j'habite, là, dans lequel je me suis installé, c'est un immeuble qui date des années 70, qui a été construit pile poil dans cette époque-là, et j'ai du simple vitrage aux fenêtres. Voilà. J'ai du simple vitrage. On est en plein dans les années simple vitrage. Et du coup, il caille. Du coup, j'ai besoin de pousser les radiateurs pour lutter contre le froid des fenêtres, ouais. Simple vitrage, la honte, monsieur. Ah bah, il envoie ça à mon proprio. Ton chauffage n'est pas électrique. Non, j'ai un chauffage central. Ton appart est de quelle catégorie, du coup? Je sais pas. Très bonne question. C'est pas interdit normalement. Dans le neuf, si, mais pas dans l'ancien. L'époque des grands ensembles, les bars et tours d'immeubles à pas cher. Exactement, les années 70. Voilà. J'avais commencé avant. L'interdiction de la location d'appartements non ou mal isolés, elle entrera en vigueur quand déjà? En janvier prochain? Ouais, c'est ça, c'est en janvier prochain, ouais. Ah non, 2025? Ah, c'est 1er janvier pour les classes G. Ah oui, c'est une généralisation progressive jusqu'en 2025, d'accord. Ça dépend du diagnostic, ouais. C'est pas interdiction de louer, c'est interdiction d'augmenter les salaires. Non, c'est augmente. Non, tu confonds. D'augmenter les loyers. C'est les pires de la classe G en 2023 et toute la classe G en 2025. D'accord. Ok, d'accord. Donc, interdiction des nouvelles locations. Ah oui, des nouvelles. Ah oui, non, les anciens locataires, ils sont baisés, ça c'est sûr. C'est ça, ils peuvent plus augmenter les loyers, ils peuvent plus relouer. Ouais. Mais de toute façon, tu peux pas augmenter les loyers en cours de contrat, tu dois signer un nouveau bail. Donc, comme la signature de nouveau bail est interdite sans rénovation, ça règle le problème. Ah mais du coup ça veut dire que si j'arrête de payer mon loyer parce que j'ai plus de parce qu'il a pas rénové, ça veut dire que je deviens un squatteur et que du coup je tombe sous le coup de la nouvelle loi sur les squatteurs. Oh merde. Je vais me faire dégager de chez moi parce que la loi m'interdit de payer mon loyer. Parce que la loi interdit à mon propriétaire de me louer son appartement qui est mal isolé. Et on va se retrouver en prison avec mon locataire, avec mon propriétaire. C'est quand même dommage. Du coup, t'es logé en prison. Ah ouais, elle est isolée comment ta prison? Excusez-moi, monsieur, je refuse de rentrer dans cette cellule. Elle est très mal isolée. Là, on est au moins sur une note G, voire H. Ils peuvent pas augmenter les loyers, mais ils peuvent augmenter les charges. Oui, enfin, sauf que les charges. Enfin, moi, en l'occurrence, c'est un immeuble. Donc, les charges, elles sont les mêmes pour tout le monde et ça dépend des contrats de prestation qu'on a. Barreaux triple vitrage, isolé avec les autres détenus de ta cellule. Ouais, bah, je paierai pas le loyer de ma cellule. Et je me souviens, on parlait d'isolement, j'avais dormi dans une auberge de jeunesse, le truc le plus mal isolé de l'histoire. C'était littéralement un espèce d'immeuble horrible. Ce qui te séparait de l'extérieur, c'était une espèce de plaque large comme ça, microscopique. Il n'y avait aucune isolation, et c'était en plein milieu de l'hiver. Et je me souviens qu'il y avait du givre à l'intérieur du côté de la rue. Du côté de l'extérieur, il y avait du givre à l'intérieur, à côté de mon lit. Donc j'avais le bras à côté de la glace, là, qui était juste là. Et de l'autre côté, j'avais un radiateur électrique qui me bombardait la gueule. Et donc j'avais chaud au bras gauche. J'étais en mode... D'accord. C'est absurde, j'ai très très mal dormi. Ah, c'était à Paris, hein. C'était totalement à Paris, hein. C'était où ce truc? J'étais dans l'associatif à l'époque. On avait fait un truc associatif. Comment ça s'appelait? Attends. Auberge d'Artagnan. Je crois que c'est ça. Attendez. J'essaie de me souvenir. C'est derrière le bus. Hop. Je crois que c'est ce truc-là. C'est ça, c'est l'auberge de jeunesse d'Artagnan. Oh, le souvenir que j'ai, putain. PTSD. Et alors, du coup. Mais en fait, les chambres donnaient de l'autre côté. Ça, c'est la façade côté rue, mais nous, c'était côté cour. On peut pas voir côté cour. On se laisse geler. Voilà, c'est ce magnifique établissement ici, qui est une auberge de jeunesse. C'est pas dans le 18e, non, c'est dans le 20e. Ah, je me souviens. Bon, j'espère que ça a été rénové depuis, hein. Je vous parle de ma jeunesse, c'était. Oh, il y a longtemps! Il y a fort longtemps. Ah, vous avez vu l'intro de Samuel Etienne? Ah bah oui, on est vendredi, je suis con. Au siècle dernier. La vision parisienne de l'auberge. Mais non, mais c'est une auberge de jeunesse. On va pas me faire croire que toi, t'as une vision romantique de l'auberge avec son petit feu de cheminée et... Le monde n'est pas comme dans le poney fringant. L'auberge espagnole. Une bonne auberge. Au millénaire dernier, ouais. Les auberges de jeunesse, c'est jamais agréable de toute façon. Non, mais les auberges de jeunesse, c'est fait pour être pas cher et dans les grandes capitales. C'est très bien, les auberges de jeunesse. Moi, je suis pour les auberges de jeunesse. Vive les auberges de jeunesse. Oh, laissez les jeunes voyager, hein. Une auberge de jeunesse. T'es con. Lyon 9e. Ça me rappelle une auberge de jeunesse en Turquie avec un plafond plein d'eau, gonflé qui goûtait. Ah ouais, non, c'est souvent rock'n'roll, hein. J'ai fait une auberge de jeunesse au Mexique, je me souviens. C'était rock'n'roll, hein. Mais c'était marrant. J'en ai fait à Barcelone, Berlin. Je crois que c'est tout. Ah, Vienne aussi. Comment est arrivée cette histoire de préservatif gratuit? Il y a une loi là-dessus. Est-ce que c'est décidé unilatéralement par le président? Non, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement, dans le cadre de la mobilisation de l'État pour lutter contre la prolifération des maladies sexuellement transmissibles, notamment le sida. Il y avait la journée mondiale de lutte contre le sida qui était il y a la semaine dernière. Le gouvernement a annoncé la mise à disposition gratuite de préservatifs pour les jeunes de 18 à 25 ans en pharmacie. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que c'est l'État qui paye, hein, c'est tout. Macron a posté qu'il comptait l'étendre aux moins 18 ans, mais ce n'était pas déjà dans les établissements scolaires. Si, il y a des préservatifs gratuits à disposition dans les infirmeries des collèges et des lycées. Donc c'est déjà disponible, mais c'est pas pour autant. Enfin, ça peut être difficile à obtenir. Donc là, ça va jusque dans les pharmacies. Planning familiaux aussi, évidemment. Beaucoup d'établissements médico-sociaux aussi. Mais voilà. Donc plus il y a de préservatifs gratuits, mieux c'est. Moi, quand j'étais au lycée, j'avais milité, j'avais même fait voter par le conseil d'administration du lycée l'installation de distributeurs de préservatifs dans les toilettes. Et le proviseur, il était contre. Il m'emmerdait avec ça. Finalement, ça avait jamais été installé, hein. Mais on avait voté une résolution. Il faudrait que ça soit plus discret quand même. Bah, la pharmacie, je veux dire, c'est là que tu vas les acheter après, donc j'ai envie de dire. C'était quoi son argument contre? Bah, il disait que c'était déjà disponible dans les à la pharmacie, à la à l'infirmerie. Les capotes dans les chiottes de lycée, c'est la base. Ouais, non, mais on s'était engueulé. Il était de droite de toute façon. Moi, je m'engueulais avec lui tout le temps sur tous les sujets. Oh, j'étais jeune, j'étais insoumis. Mais ouais, non, on avait dit distributeur de protection hygiénique dans les chiottes des filles, préservatif dans les toilettes des deux genres, des deux sexes, mise à disposition d'un local pour la salle de rédaction du journal du lycée. Mise à disposition de ramettes de papier pour imprimer le journal du lycée sur la photocopieuse de la salle des profs. Organisation d'une soirée de fin d'année avec mise à disposition comment il s'appelle? Du gymnase d'à côté. On est allé dans le bureau du maire pour réclamer le gymnase. On dit, nous, on veut faire une teuf de fin d'année. Tu nous files le gymnase, telle date. On l'avait fait, hein, c'était trop bien. On a fait une grosse teuf, c'était trop bien. Dans les toilettes, ça rend possible les abus et les utilisations détournées. Je vois pas en quoi le fait que ce soit à l'infirmerie rend moins possible les abus et les utilisations détournées. Puis les abus, j'ai du mal à voir comment tu peux abuser d'une capote, hein. Les bombes à eau. Enfin, je veux dire, l'absence de distributeurs de préservatifs dans les toilettes ne nous a jamais empêchés de faire des bombes à eau, hein. On en faisait, hein. On avait ce qu'il fallait. Et on faisait rarement ça dans des capotes, parce qu'il fallait les acheter les capotes, hein. C'est cher, c'est chiant. C'est quand même vachement moins cher d'acheter un sac de ballon chez Carrefour, hein. Faites ce que vous voulez, hein, mais enfin, je trouve ça un peu luxe. La bombe à eau ultra lubrifiée. Vous faites ce que vous voulez, hein. Le PQ mouillé, vachement plus drôle. Et gratos, à disposition, gratuitement, dans les toilettes. Non, mais non, ça c'est un faux argument pour. Je préfère que les gens utilisent des capotes pour faire des bombes à eau plutôt que des capotes, plutôt que pas de capotes du tout pour le Covid. Oui, je suis d'accord. Puis si la manière qu'ont les jeunes de se familiariser avec l'objet, c'est de faire des bombes à eau avec, et bah très bien, familiarisez-vous, désacralisez le truc, il n'y a pas de tabou. Et comme ça, vous penserez à en avoir avec vous et à en porter en cas d'accident, me disait mon père. Les sarbacanes à air comprimé, très important les sarbacanes à air comprimé. Très très important. Donc voilà, je sais pas pourquoi je vous parlais de ça. Ouais, les distributeurs de capotes. Oui, parce qu'on parlait des capotes gouvernementales, gratuites pour les jeunes dans les pharmacies. Moi je trouve ça très bien, voilà. Tout ce qui va dans le sens de la prévention au sida, très bien. M'en fous. C'est bien. Voilà. Ça sonne bien les capotes gouvernementales. Bah ouais, parce que moi quand j'étais au lycée, le gouvernement avait déjà fait les capotes chez les marchands de journaux à 50 centimes. Des capotes pas chères. On a appelé ça les capotes gouvernementales. On avait écrit des conneries dans le journal du lycée, je me souviens. Parce que j'étais responsable de la publication. On avait titré Et pour le lubrifiant, on fait comment? Je crois que c'est ça le titre. Et pour le lubrifiant, on fait comment? On avait mis ça en titre. Et ensuite, on avait fait un guide sur comment utiliser les capotes gouvernementales. Avec une review. Ah oui, non, c'est ça, j'avais une copine qui avait écrit un article qui était le. On a testé pour vous la capote gouvernementale. Et elle avait écrit un article super marrant où elle racontait toutes les positions qu'elle avait essayées avec. Mettait des notes sur 5. Il était très marrant son article, je m'en souviens. Les petits beurres à la cantine. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait fait un jeu de mots là-dessus, qui avait fait une blague dans un article. Dans le corps d'un article, il avait écrit un truc du genre Et pour le lubrifiant, est-ce qu'on peut utiliser les petits trucs de beurre là qu'on a à la cantoche? Ah, qu'est-ce qu'on rigolait, hein? T'avais le temps d'étudier entre le lycée et ton journal et les revendications? Ouais, je faisais de la figuration en cours. Moi, au lycée, on avait fait les capotes gratuites, c'est bien, mais les récrés sont trop courtes pour en profiter. Yes! Non, j'avais des potes. Ah, c'était très très drôle cette anecdote. J'avais des potes qui avaient un journal du lycée dans un autre lycée que le mien et qui m'avaient raconté que le proviseur du lycée leur avait fait une réflexion en leur disant « Il y a beaucoup de gros mots dans votre journal. » Il n'était pas content parce qu'il y avait des gros mots. Et ce qu'ils avaient décidé de faire, c'est, dans toutes les éditions suivantes du journal, ils cachaient un maximum de gros mots dans le journal, mais qui étaient visibles que par les initiés. Donc par exemple, il faisait un liseré autour des pages, un liseré noir. De loin, tu avais l'impression que c'était un trait noir qui entourait la page, quoi, qui était un grand cartouche, quoi. Mais en fait, quand tu rapprochais du papier très très frais, il y avait écrit Bitcoin couille cul en tout petit. Il y avait écrit Bitcoin couille cul, Bitcoin couille cul, Bitcoin couille cul, et ça faisait tout le tour de la page. Et personne ne le savait, à part la rédaction. Une autre fois, ils avaient imprimé en immense sur toutes les doubles pages du journal du lycée. À chaque fois que tu tournais les pages, il y avait écrit en gigantesque bit, con, couille et cul sur toutes les pages, ainsi de suite. Mais c'était en immense et en gris très 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 clair. Donc de loin, enfin de près, tu avais l'impression que c'était une espèce de mise en page. C'était tellement grand que tu voyais pas que c'était des lettres. Mais si tu te mettais de très très loin et que tu regardais le journal, il y avait écrit bit, con, couille, cul. Et il faisait des bit, con, couille, cul partout, dans tous les dessins, dans les photos, il cachait des bit, con, couille, cul. Et ils ont fait ça pendant 2 ans. Le proviseur l'a jamais su. Et je trouve ça très très drôle. C'est Bitcoin couille cul. Y a prescription. Ah, oh, je ne donnerai pas les noms. Certaines de ces personnes sont des gens à responsabilité aujourd'hui. Je ne donnerai pas les noms. Mais c'était très très drôle. Qu'est-ce qu'on avait? Bon, il y avait l'affaire Ravaillac qui était très connue en l'an 2000, mais moi j'étais encore trop jeune, qui avait fait un numéro spécial sur le sexe. Et le titre du journal, c'était Du cul, du cul, du cul. C'était le titre en une du journal, numéro spécial sexe. DSK, j'avais lu des articles dans des journaux lycéens sur DSK, sur la meilleure manière de porter la robe de chambre. Le guide. Moi, j'avais écrit un guide des meilleurs bars à Paris, enfin, des bars les plus marrants, des bars insolites à Paris. Qu'est-ce que j'avais écrit comme connerie, putain? J'avais fait une interview de mon prof d'écho parce qu'il avait un collier qu'il portait tout le temps et qui un jour avait disparu. Et du coup, j'avais écrit une enquête à la recherche du collier disparu. Et j'avais fini par interviewer le prof. Ravaillac, c'est pas celui qui a tué Henri IV? Si. Ravaillac, c'est le nom de l'assassin d'Henri IV et c'est le nom du journal du lycée Henri IV. Les lycéens d'Henri IV ont un journal qui s'appelle Ravaillac, c'est son titre. Enfin, je sais pas s'il existe toujours, mais il a existé dans les années 90-2000. T'as encore des exemplaires que tu pourrais nous montrer? Non. Non, j'en ai plus aucun. T'étais Henri IV? Ah non, non, j'étais pas Henri IV. T'as déjà été bourré en cours? Oh non, je buvais pas d'alcool. Non, non, non. Je buvais pas d'alcool au lycée. Bon, très très peu. En soirée. Après, à la fac, il eût arrivé qu'on arrive en cours en lendemain de cuite vénère, après 2 heures de sommeil. On avait un cours le samedi matin, je m'en souviens, avec ma promo. En master, on venait en cours avec des Mac Morning. En général, on n'était vraiment pas frais. Bonsoir, je suis une personne devant un écran. Bonsoir, je suis une personne devant une caméra. On est fait pour s'entendre. Le café, dans ce cas, la molécule magique. Ah ouais. À Sciences Po, on fait ça pour un scandale autour des raisins qui poussent sur le campus. Si tu veux nous lire, c'est le petit ragondin sur Instagram. Ah ouais? En école, il y avait un cours de langue le samedi matin pour certains. Il eût arrivé souvent que certains débarquent une bière à la main en sortant de soirée 20 mètres plus loin. J'en ai vu aussi commencer à s'alcooliser en cours ou sortir de soirée. Ah, c'est une signe. Moi, j'ai déjà fait des nuits blanches, mais en général, c'était nuit blanche into examen. On appelait ça le rush. On n'avait rien révisé de l'année, du semestre. On se pointait à la BPI le soir. On révisait comme des porcs jusqu'à la fermeture à minuit de la BPI. Ensuite, on se trouvait dans un restaurant ou dans un café, n'importe quoi, ouvert 24-24. On continuait à réviser. Et on arrivait à 8 h du mat, pas frais. On y allait au talent. Ça passait pas, hein. On avait des notes de merde. C'est quoi réviser? Je sais plus. Tu nous as lu tes notes. Ouais, de toute façon, vous avez bien vu, hein. Elle fermait à minuit la BPI. À une époque, ouais, la BPI fermait à minuit. Je sais pas si c'est encore le cas. Il y avait une. Ah non, ça a changé, ils ont changé l'entrée. L'entrée de la BPI. Enfin, c'est la BPI, pour ceux que ça fasse, c'est la Bibliothèque publique d'information de Paris, qui est au centre Georges Pompidou. Et l'entrée de la bibliothèque se faisait par l'arrière de la BPI. Et maintenant, ils ont changé. Maintenant, l'entrée se fait par l'avant, comme le musée. Et à l'époque, on avait une webcam. On pouvait consulter la webcam pour savoir si ça valait le coup d'y aller, parce que sinon, il y avait une file d'attente immense. C'est le problème des étudiants de nos jours, il n'y a plus de talent. Obligé. Un prono pour demain. Qu'est-ce qui se passe demain? Non, c'est samedi le second tour des Républicains. On a des raisins sur le campus de Reims. Certains ont pris illégalement, alors qu'ils appartiennent à la mairie. On a reçu un email salé de la directrice du campus et donc, le Grabgate a été investi par le Petit Ragondin, journal d'investigation de Sciences Po. Demain, c'est samedi. Bah oui, c'est ça. C'est dimanche qu'on a le second tour. Ah non, je vous ai dit demain. Non, pardon, c'est dimanche. C'est dimanche qu'on a le second tour des Républicains. Ah, et un match de foot. On branle. Est-ce qu'il y a du Flight Simulator ce week-end? C'est possible. C'est possible qu'il y ait du Flight Simulator, mais j'ai un nouveau setup Flight Simulator, donc ça risque d'être un chouïa compliqué à organiser. Parce qu'il faut que je change pas mal de trucs, mais peut-être qu'il y aura du Flight Simulator sauvage ce week-end. Peut-être. Peut-être, 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 si vous êtes sage. On va faire un raid. On va bouger. Je vais m'arrêter là. On va faire un raid. On va aller chez Sarah Coppona. Allez, on finit en musique. Sarah Coppona, streameuse, mais surtout pianiste, musicienne pianiste, qui joue ses propres compos avec ses quatre pianos dans sa salle de stream. Merci beaucoup Payota pour ton prime. Sarah Coppona, donc c'est bon, je l'ai bien écrit, oui normalement c'est bon. Donc raid chez Sarah Coppona, passez une bonne soirée en compagnie de Sarah, amusez-vous bien, écoutez cette belle musique, profitez-en bien, abonnez-vous, c'est pas déjà le cas, suivez cette belle chaîne et je vous dis peut-être à ce week-end si vous êtes sage. Voilà. Donc des bisous et peut-être à ce week-end. Salut tout le monde, ciao bye.